Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast sur la mobilité, deuxième épisode, et ça fait plaisir de se retrouver ici encore pour parler de déplacement et de mobilité en tout genre. Avec moi autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Chloé. Bonjour Chloé.
Salut Ken.
Ça va bien?
Ça va hyper bien en ce jour de grève.
En ce jour de grève, tout à fait, puisque on est parfaitement dans le thème actuellement. Plus de transport en commun, plus de métro, plus de train, plus rien. Et pourtant, nous sommes tous réunis avec Victor. Bonjour Victor.
Bonjour.
Comment tu expliques cette grève actuelle?
Oh là, tu lances des sujets très sérieux déjà. C'est la mobilisation de la RATP, des agents de la RATP contre la future réforme des retraites de notre cher gouvernement. Je ne m'exprimerai pas sur le sujet, je pense que la réforme est une grosse connerie, mais bon, ça ne m'engage que
donc
moi.
Tu soutiens la grève?
Tu soutiens la grève?
Je soutiens les grévistes.
Très bien.
Et d'ailleurs, ils s'y sont très bien pris, parce que là, il y a quoi? Il y a 90% de suivi. Là,
c'est prodigieux.
Il y a 10 lignes de métro en moins, il y a quasiment plus de RER, il y a plus de RER en heure creuse.
L'emmerdement est total.
J'ai aucune idée de comment je vais aller au taf, non.
Aujourd'hui dans Commute, nous allons parler des applications liées à la mobilité, que ce soit des applications de déplacement, que ce soit des applications liées au transport en commun, ou que ce soit des applications de location de véhicules particuliers. On va tout décrypter, vous donner des astuces, nos modèles d'utilisation et pourquoi est-ce qu'on préfère utiliser telle ou telle chose. Voilà, ce sera évidemment réparti en trois chroniques. Il y aura aussi trois news, comme dans le précédent épisode, qui casseront un tout petit peu le rythme de ce podcast afin de parler de diverses choses qui ne sont pas forcément liées au sujet Commute. Ça commence tout de suite avec la première chronique. Et c'est toi, Victor, du coup, qui va nous parler des applications liées au transport, de la data.
C'est ça.
Surtout.
Je vais vous parler de l'utilisation de l'open data et des enjeux de la donnée qu'il y a derrière les applications de transport. Et je vais partir d'un petit constat avant de vous parler des conflits qu'il y a sur les données. Je vais vous faire une petite liste. Je vais vous faire les listes des notes. Des applications de transport des grandes villes, donc des réseaux de transport des grandes villes de France.
Sur
donc, pardon.
Sur quel
sur Play Store, parce que je n'ai pas d'iPhone. Donc Transpol Lille 2,4 sur 5, Twisto Caen 2,5 sur 5, TCL Lyon 2,6 sur 5, TBM 2,9, TAM 3,1, RTM 3,2. Et le palmarès est avec Paris Via Navigo 3,5 et Métro Mobilité de Grenoble avec 3,5 sur 5. Mention spéciale pour Metz, qui ont deux applications pour se déplacer, l'une à 1 sur 5 et l'autre à 2,2 sur 5. Voilà,
bravo.
C'est super. Donc comme quoi, le constat, c'est que les applications dont vous disposez pour vous déplacer en ville, ça marche relativement mal. Donc, entre autres, des crashs en série, des incompatibilités avec le matériel. Donc ça, c'est propre à Android. Je pense que sur iPhone, ça marche peut-être un peu mieux, du moins, je l'espère. Moi, le principal truc qui me gonfle, c'est que quand on recherche un endroit où on veut aller, pour la recherche d'adresse, c'est très, très approximatif. Donc, par exemple, je veux me rendre à un restaurant. Je tape le restaurant type La Marine sur KGMap, au hasard.
Ouais.
Le trois quarts des applications, vous ne pas le trouver. Les itinéraires sont
carrément.
En fait, il faut que tu rentres l'adresse exacte, donc il faut que tu fasses une recherche Google, puis ensuite il faut que tu mettes l'adresse exacte de ton restaurant, ce qui est très pratique. Les itinéraires sont assez mal optimisés, avec des correspondances qui sont très mal assurées. quand elles le sont déjà, et les fonctionnalités globales sont très limitées, donc c'est-à-dire c'est d'un point A à un point B et basta cosy, démerdez-vous. Donc en plus de ça, on va pas leur demander d'intégrer des autres services de mobilité comme des trottinettes ou quoi. Quand elles intègrent d'autres choses, c'est en général des services qui sont proposés directement par l'opérateur de l'app. Donc avec l'application Navigo, je pense qu'on peut choper des Vélib, mais ça se limite à ça. Par exemple à Paris, il y a un autre problème, c'est que, donc là je parle d'un exemple qui est typiquement parisien, mais ça va vous illustrer un petit souci, un premier enjeu sur les données. C'est-à-dire que si tu veux te déplacer en grande banlieue ou en deuxième couronne, et que tu veux aller par exemple au château de Fontainebleau ou un petit peu plus loin, ce qui m'est déjà arrivé, en fonction de si tu utilises l'appli RATP, l'appli Transilien SNCF ou l'appli Via Navigo, tu n'auras pas les mêmes itinéraires. Et en général, les applications ont tendance à favoriser les bus qui sont de leur réseau à eux. Donc par exemple, l'appli RATP ne prenait pas du tout les bus Veolia qui sont les exploitants du réseau de bus qui est à Fontainebleau. Donc c'est un peu problématique. Alors que le Via Navigo, il s'en fiche, c'est inclus dans le pass Navigo, donc go. Donc pour pallier à ça, il y a eu plein d'applications tierces qui s'y sont attelées. On a parlé la semaine dernière de Google et de Google Maps qui intègrent pas mal de déplacements de transport, notamment les trucs multimodales, ouais. CF Manus de la semaine dernière. Et on peut citer également Moovit, l'application que je n'ai pas utilisée personnellement, mais qui apparemment met l'accent sur les échanges entre utilisateurs en temps réel. C'est-à-dire que tu as une fonctionnalité un peu à la Waze, donc je vous en parlerai, je pense. Oui. Mais en gros, c'est des échanges d'informations entre voyageurs qui permettent d'échanger sur les problèmes, sur les choses qu'il y a dans la ligne, donc ça marche plutôt pas mal. Et aujourd'hui, je vais mettre un peu l'accent sur l'application CityMapper, d'une part parce que c'est celle que je connais le mieux, parce que je l'utilise le plus. Et d'autre part, c'est parce que c'est une application qui est un peu sortie du cadre de son usage initial, qui était à la base juste te fournir des itinéraires. Donc en parlant juste de CityMapper, pour ceux qui ne connaîtraient pas et ceux qui n'en l'ont jamais utilisé, je vais vous décrire un peu les fonctionnalités qui, moi, qui ont retenu mon attention et qui font un peu la force de cette application. Cette chronique n'est pas sponsorisée.
Évidemment. Fibre Tigre nous dira quand ce sera.
Envoyez-moi des sous. Et c'est, en plus, c'est Xavier Niel, je crois, qui a backup la startup, donc c'est très bien. Non pas que je sois particulièrement fan de Xavier Niel, mais en tout cas, je crois qu'ils ont des sous. Donc déjà, il y a des itinéraires à partir d'adresses Google, donc vous nommez votre entreprise, exemple vous travaillez à votre Cogedip, vous mettez le nom de l'entreprise et il vous trouve l'adresse à partir de la requête Google et ça vous économise un clic. Les correspondances sont très bien optimisées, ils ont été un peu pionniers dans l'optimisation des correspondances, notamment à l'endroit où est-ce qu'il faut se placer dans un train pour se mettre face à la sortie ou face au couloir qui vous amène à l'autre métro ou RER. Des autres moyens de transport qui sont proposés, donc par exemple pour les scooters il y a Coop ou City Scoot qui est intégré dans l'application, pour les trottinettes il y a Lime et Bird, pour les taxis ils vous proposent à la fois Uber, Captain et G7, et maintenant ils vous proposent aussi des partages de voitures, donc du carpooling et du covoiturage en gros.
Ça dont je vais vous parler.
Il y a des itinéraires personnalisés en fonction de plein de choses. Donc on parlait de la grève, là il y a des itinéraires qui sont grève-proof, sachant que demain de toute façon c'est mort. De toute façon c'est mort parce qu'il n'y a quasiment pas de métro qui circule, donc même si vous allez là-dedans ça va être terrible. Mais par exemple pendant les périodes de canicule, ils proposaient des trajets un petit peu plus longs mais dans des rames climatisées. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des alertes de dérangement des circulations, des bulletins d'information. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ils ont mis un petit mémo sur toutes les conditions de circulation qu'il y avait demain, les lignes qui étaient interrompues, il y a les horaires de travaux, tout ça. Et dans les petites fonctionnalités qui, je trouve, font vraiment tout le côté intéressant de cette application, il y a une alerte vibreur qui t'annonce quand tu dois sortir à la bonne station. C'est-à-dire que tu lances ton itinéraire, il utilise ta balise GPS, et quand tu arrives à la bonne station, il vibre, il te dit « là, il faut que tu sortes ».
Alors, question que juste comme ça ouais. Fonctionne avec les montres aussi ?
Je sais pas du tout. D'accord. J'ai pas de montre connectée, mais je pense que tu peux éventuellement avoir un relais, si c'est bien fait. Et il te propose aussi, si tu fais des voyages tard dans la nuit, de te faire un petit rappel, genre en gros, envoyer un message à un proche pour vous prévenir que vous êtes arrivé. Donc c'est plutôt cool. Et il te fait un petit compteur aussi, du nombre d'arbres que tu as sauvés et du nombre de CO2 que tu as économisé en ne prenant pas ta voiture. Donc voilà, c'est très cool. Le problème de cette application, c'est qu'ils se sont heurtés à un mur de la RATP en 2016 qui leur a dit « Niet, on ne vous fournit plus l'accès à nos serveurs pour avoir les horaires et les temps de passage. » parce que ils ont dit, ils ont argué que il y avait des bugs à répétition. Voilà. Les connaisseurs diront que ils ont juste chanté le truc en disant c'est chez nous et démerdez-vous tout seul.
C'est un peu ça.
Donc CityMapper a eu une solution tout à fait maligne, qui était de dire on contourne le blocage de l'accès au serveur en utilisant le vieux portail WAP. Donc pour les plus 2000 d'entre nous, un portail WAP, c'était les portails qu'on utilisait avec nos téléphones portables en Edge.
Ah ouais.
Pour avoir des sites internet d'un autre temps. Et en gros, CityMapper utilisait des requêtes à chaque fois que tu cherchais un temps de trajet. Il te disait, voilà, le prochain métro ou RER passe à temps, parce qu'ils utilisaient ce portail WAP de façon un peu détournée. Il y a eu une grande pétition qui a été lancée. CityMapper a dit, vous ne laissez pas travailler, on a X millions d'utilisateurs, ça va être terrible. Et donc la réaction, ça a été que le STIF, donc le syndicat des transports d'Île-de-France, qui est l'autorité organisatrice, donc qui gère tous les transports en commun d'Île-de-France, a imposé en 2015, enfin et juste après ce truc-là, donc 2016, le partage des données entre opérateurs, donc la SNCF, la RATP et tous les opérateurs tiers tous les opérateurs de mobilité d'Île-de-France sont obligés de dire, de partager leurs données. Que ce soit avec des applications comme ça, ou même toi, par exemple, toi, le sigiste qui m'écoute, si tu fais de la SIG, ou si tu veux faire des analyses de déplacement, ou si tu veux faire, ou tous les apprentis urbanistes et modélisateurs de transport, on peut aller sur les sites, récupérer des jeux de données, les traiter, faire des trucs nous-mêmes.
Je peux le faire, moi aussi ?
Ouais.
Je peux aller récupérer toutes les données de la RATP, d'accord.
Ouais, alors, toutes les données, non. Par exemple, t'auras pas les données de retard.
J'aurais pas les données de retard.
Non. Ça, il y a quand même des choses qui sont relativement verrouillées.
Crois-moi, je les ai bien, les données de retard, de toute façon.
Non, mais par exemple, t'auras les horaires de passage en temps réel, entre guillemets. Il y aura quand même un sacré jeu de données qui sont en compte. Par exemple, SNCF a mis en ligne toutes les gares avec des fichiers qui sont géoréférencés. Donc, t'as la position GPS de toutes les gares. Tu peux sortir des très belles cartes, tu peux faire des analyses, c'est très bien. Et donc, du coup, vu que cette donnée maintenant est gratuite, donc ça fait un peu chier les opérateurs historiques, parce qu'on peut se poser la question, mais quel bénéfice a CityMapper de nous proposer un service gratuit en servant des données des autres ? Comment ils font leur beurre ?
Pas de question.
Donc déjà, ils font des choses qui sont sponsorisées, mais surtout, en 2017, CityMapper, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, donc ils n'ont pas seulement fourni de l'information pour se déplacer, mais ils ont fourni des moyens de déplacement. Ils ont lancé un bus à partir de leurs données, parce qu'ils ont dit on a analysé nos données et on n'était pas satisfait. Pas satisfait de la qualité de la donnée, pas dans le sens qu'elle était mauvaise, mais dans le sens qu'il y a des trous dans la raquette.
Ah ouais.
De déplacement. Ils ont dit, voilà, là on pense qu'il y a possibilité de mettre un service de bus sur cet itinéraire-là, parce qu'en fait il y a un vrai manque à cet endroit-là. Donc ils ont lancé le CMX1, c'est son petit nom, qui faisait une espèce de petite boucle dans Londres, vous pouvez taper si ça vous intéresse sur les internets, à partir du manque des données. Donc ils ont fait un service gratuit de trucs où tu pouvais monter dedans, et c'était des bus assez modernes, assez start-up 2.0. t'avais ton chargeur USB, t'avais une carte en temps réel de la position du bus, c'était très très new tech, voilà. Ça s'est arrêté gentiment parce que la fréquentation était pas folle, et ils ont essayé de faire un truc un tout petit peu différent, qui était le smart bus, comme ils ont appelé ça. Donc ils ont essayé de réinventer la roue, comme toutes les startups. Ils ont fait une sorte de mix entre un Uber Pool et un service de bus. Donc c'était un bus qui avait un itinéraire assez contraint au départ, et qui s'adaptait à la demande. C'est-à-dire qu'en gros, tu disais, bah voilà, je veux me déplacer là,
ouais.
Et le bus, hop, se décalait un tout petit peu, et venait te chercher. C'était juste un gros Uber Pool, tu vois, genre avec 20-25 personnes
dedans. Ouais.
Sachant que c'était pas des gros bus, c'était des sortes de petites camionnettes, comme tu vois, enfin genre un bus qui faisait une quinzaine de places, quoi, en gros. Et en fait, ça c'était intéressant pour eux, parce qu'ils se sont dit, bon bah voilà, si l'itinéraire exact du truc qui est un bus traditionnel avec un itinéraire, et si t'es pas dessus, bah tant pis. On va essayer d'optimiser notre remplissage en faisant un truc qui, en gros, s'adapte un peu et fait un itinéraire un peu plus flexible.
Là encore, ça
pas très bien fonctionné. Ouais.
Pourtant, c'est des bonnes idées.
C'est
des
très très bonnes idées. On nous vend ça comme la fin du bus. C'est le jour où on arrive à faire des véhicules autonomes qui feront de l'itinéraire flexible en temps réel, ce sera merveilleux. Pas pour demain, à mon avis.
Enfin, je pense que ce sera un sujet aussi dans le but. Les transports de demain, c'est très important.
Les transports autonomes, ça peut être très, très bien. Et donc, du coup, ils sont repassés de l'autre côté. Là, pas en tant qu'opérateurs vraiment exploitants de transport, mais ils ont proposé un concurrent à la Oyster Card. Donc, j'en ai parlé un peu le mois dernier. Donc, c'est l'équivalent du Navigo à Londres. Et là, ils ont fait une alternative. Alors, je ne sais pas comment ça marche économiquement, j'ai pas réussi à trouver, mais en gros, pour £30 par semaine, ce qui est 5 de moins que la Oyster Card normale, tu as accès aux zones 1 et 2 du réseau londonien, et pour £10 de plus, si tu veux, tu as accès au vélo illimité.
D'accord.
Donc, du Vélib, mais un peu privé. Tu as £10 de crédit de taxi. Donc, avec donc, pour £10 de plus, tu as déjà £10 de crédit pour prendre un taxi.
Mathématiquement, moi je m'y retrouve pas. Comment ça se passe?
Comment
ils gagnent des sous?
Moi aussi, je bug beaucoup.
Et t'as le droit à deux trajets en covoiturage. Et sachant qu'ils en promettent encore plus, c'est-à-dire qu'ils vont dire voilà, on va intégrer des trottinettes, on va intégrer d'autres choses. Ils font plein de trucs. Je ne sais pas comment ça marche économiquement, je sais pas comment ils s'y retrouvent, mais apparemment ils font ça.
Ils ont lancé ça quand? Excuse-moi.
Ils ont lancé ça au mois de mars de cette année.
D'accord, donc on peut pas savoir si ça marche encore.
Et tu parles qu'à Londres, là.
Ouais, je parle qu'à Londres. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, j'ai pas dit ça dans les points négatifs de Citymapper. Ouais. Malgré toutes les fonctionnalités qu'ils ont, pour l'instant, c'est quand même limité à certaines villes. Donc il y en a beaucoup en Europe. Mais c'est pas disponible dans toutes les villes de France, en tout cas, par exemple.
Ouais. En tout cas, les villes sur lesquelles ils font des expérimentations, c'est souvent Londres.
Et en fait, Londres, c'est parce que c'est leur zone de... Enfin, c'est une start-up londonienne. Okay, du coup, c'est un peu leur jardin, quoi.
Normal.
Donc, en fait, on voit que la start-up, elle a d'abord essayé de faire juste de la donnée classique. Ils ont essayé de passer en exploitant. Et ensuite, ils sont repassés du côté... autorité organisatrice, enfin pas vraiment autorité organisatrice, mais ils ont pu proposer une carte de trajet qui est concurrent à la Oyster Card de d'habitude.
C'est une première.
Donc c'est une première. Et ça, par exemple, c'est absolument pas possible à Paris, puisque personne ne peut proposer un Navigo à part la RATP et le STIF. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu frileux à filer leurs données, parce qu'ils ont peur que la concurrence arrive un jour, puisque... je crois que l'ouverture de la concurrence des transports parisiens, ça va arriver relativement
vite.
Non, pas relativement vite. Je crois que c'est. Je n'ai plus la date en tête exacte. Ça doit être entre 2025 et 2030.
Excuse-moi, ça s'est lié à quoi, du coup, l'ouverture à la concurrence? C'est des accords qui ont été signés pour X années et on arrive à la fin?
Non. Je pense que c'est.
C'est pas comme le droit d'auteur.
C'est des prérogatives européennes, je pense, qui imposent. C'est tout un autre sujet de chronique à faire, mais en gros, les directives européennes permettent la mise en concurrence de certains réseaux de villes. D'ailleurs, c'est le cas dans plein de villes en France. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux de villes qui ne sont pas exploités par des opérateurs publics.
C'est vrai, c'est vrai.
Ou du moins, c'est des parapublics, c'est un peu de financement public, un peu de financement privé, c'est... un opérateur un peu tiers, et ils renouvellent quand ils veulent. Par exemple, comme pour les Vélib, ils ont changé d'opérateur. Pour l'utilisateur, c'est normalement transparent, excepté les Vélib où ça a été vraiment une catastrophe. Je vous en reparlerai aussi.
Encore un autre sujet de projet.
Voilà. Par exemple, dans ma campagne, quand je veux me déplacer d'une ville à l'autre, tous les bus qui emmènent les enfants au collège, au lycée, sont des bus privés qui sont loués par les communes qui se mettent d'accord pour louer ces bus et faire des lignes chaque jour.
Ouais. Voilà. Donc en fait, là, on voit que la start-up, justement, elle a essayé de faire quelque chose d'un peu similaire. C'est-à-dire, et joue le rôle d'intégrateur de mobilité, c'est-à-dire qu'il fait une mobilité intégrée, c'est-à-dire que tu utilises une seule application, tu payes une seule carte, et tu as plusieurs services qui sont intégrés à un seul endroit. Et je trouve ça très très intéressant pour deux choses. C'est que déjà, ils ont dynamité l'accès à la donnée, donc du coup ils ont rendu les choses qui sont plus transparentes et plus accessibles pour les utilisateurs. Et ensuite, on voit que c'est pas juste une opposition manichéenne entre l'acteur privé, le start-upper qui va arriver pour casser tout ce qui est l'existant. Il y a vraiment une complémentarité entre les deux, entre le côté innovant et des gens qui veulent vraiment changer la donne pour l'utilisateur. Alors, à des fins économiques, naturellement, mais en tout cas, pour l'utilisateur, pour moi, ça a changé la façon dont je me déplaçais, et je trouve ça très bien. Et en plus de ça, on voit que ça peut aussi faire réfléchir l'acteur public ce qu'il va faire et ce qu'il va mettre dans son dans sa gironde de transport. Si par exemple demain, admettons, peut-être que le STIF se posera la question de savoir si un Navigo serait pas intéressant d'inclure des trottinettes électriques, d'inclure de l'autopartage. Par exemple, il y a pas si longtemps, il y avait encore un service qui s'appelait Autolib à Paris.
C'est vrai.
RIP.
C'est vrai. RIP.
Mais admettons un Navigo avec le métro, le RER et en option, si tu veux, le Vélib, l'Autolib, de l'autopartage et plein d'autres services de mobilité. Donc je trouve ça. Très bien, et je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant pour le commuteur. Et si ma chronique se clôturera là-dessus, si on veut tendre vers l'abandon du véhicule personnel et vraiment que les gens lâchent leur bagnole pour de bon et qu'on puisse avoir des déplacements de ville, enfin des déplacements en ville qui respectent l'environnement, qui sont plus intéressantes pour tout le monde, je pense qu'il faut vraiment tendre vers un service de mobilité intégré où tu peux avoir un service clé en main, tu payes une taxe, enfin un abonnement flat tous les mois,
tout ce que tu veux.
Et t'as tout ce que tu veux, parce qu'en fait, si tu fais pas ça, si tu fais pas un truc qui est disponible pour tout le monde, les gens lâcheront pas leur voiture.
Ouais, et merci beaucoup, Victor. Merci. Et j'ajouterais même sur ta conclusion que ce serait vraiment pas mal d'avoir accès à tout et peut-être pas forcément que dans un lieu précis, pouvoir se déplacer même ailleurs après avoir fait un petit trajet de train entre deux villes, etc. Et c'est vrai que CityMapper est très bien, mais le gros désavantage, c'est que ça ne mappe pas évidemment toutes les villes,
ça va venir,
les villes européennes.
Si ça marche bien. Et moi, je rebondis sur ta chronique. Je pense que ça... Alors, je sais pas ce que vous en pensez,
mais
le côté très ludique de CityMapper peut jouer aussi beaucoup. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application, c'est qu'elle est, jolie, il y a des petits easter eggs partout, il y a des blagues à chaque déplacement, donc on a presque envie de l'utiliser comme une application, même juste pour voir ce qui s'y passe, plutôt que juste un outil, en fait.
Ouais, puis en plus, l'interface utilisateur est hyper bien foutue, enfin, comparé aux autres, ça, j'en ai pas parlé, mais juste l'app marche très très bien, il n'y a aucun crash, vraiment, c'est très très facile à utiliser et ça marche très bien.
Elle est un peu cliché sur les villes, parce que tu sais, ils reconnaissent où t'es.
Ouais.
Et donc quand t'arrives à Paris, je crois que t'as une petite baguette et un béret.
Oui,
c'est mignon.
C'est rigolo. Et ils font beaucoup de blagues un peu edgy. Donc là, en ce moment, il y a une catapulte à Macron. Quand tu demandes un trajet sur 10, il va te proposer un truc expérimental. Donc des fois, t'as du hoverboard ou t'as vraiment une catapulte. Ou t'envoies Macron sur ta carte pour arriver jusqu'à ta destination.
Il y avait la même chose avec le jetpack François Hollande.
Wow, nice.
C'était pas mal.
C'est trop bien. Et moi, je rebondis sur ton truc qui était de dire.
Partout.
Ouais, pas partout. Mmh. En Normandie, ils ont lancé un truc qui s'appelle AtouMod, qui est une carte de déplacement qui prend à la fois le train. Et les déplacements, les grands réseaux de bus et de déplacements urbains de la région. Donc le mois dernier, on vous parlait de l'abonnement général suisse. Là, il y a un petit peu un abonnement général en Normandie. Donc pour une fois que ma région fait une innovation dans le monde des transports, je représente. Voilà.
Bravo la
région Normandie, moi, c'est super.
J'avais deux questions du coup et deux remarques par rapport à ta chronique. La première, c'est donc tu as dit CityMapper a tenté avec l'analyse des données qu'ils ont reçues de créer justement de pallier au manque qu'il y aurait dans certains endroits. Et tu nous as dit clairement que ça a été un échec pour eux. Donc est-ce que leur analyse de la donnée est mauvaise ou est-ce que finalement les traitements des données de ceux qui mettent les transports en commun en place sont juste déjà assez bons pour que rien n'ait besoin de se greffer par-dessus?
Alors, ou troisième option, c'est que les utilisateurs sont déjà habitués et donc du coup ils prennent pas le changement tout de suite.
J'ai pas une réponse définitive et sourcée. Moi je pense qu'il y a deux axes principaux. C'est que déjà je pense que t'as raison sur le fait que les opérateurs historiques connaissent déjà bien leurs données.
Je pense que c'est...
J'en veux la refonte de toutes les bus, de toutes les lignes de bus de Paris d'il y a pas longtemps.
D'accord.
Donc là, je pense qu'ils ont vraiment adapté en fonction des nouveaux besoins et des nouveaux itinéraires et des routes qui ont changé. Et autre chose, c'est que je pense que là, c'était relativement transparent, c'est-à-dire que tout le monde pouvait monter dedans. Mais déjà, c'est limité à ceux qui utilisent l'application pour monter dans le bus qui était disponible. Et en fait, ce qui fait la force d'un réseau, c'est justement qu'il soit en réseau. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer sur plein d'autres trucs, et là, en fait, tu vois un bus qui passe. Bon, ok, c'est une navette rigolote qui passe, qui fait une boucle en ville, mais je pense pas que ça réponde à un besoin profond de déplacement. Je pense qu'ils ont des choses très intéressantes à faire en termes d'optimisation d'itinéraire de bus. Par exemple, à Paris, tu regardes la carte des métros, il y a quand même relativement peu de quartiers. Enfin, je dis à Paris, mais c'est à Paris ou dans n'importe quelle grande ville. Tu prends Lyon, tu prends Bordeaux, tu regardes la carte des trams et des métros et des bus.
Ça couvre bien. C'est...
Enfin, vraiment, c'est... on a un réseau de transport en commun qui est d'une grande qualité.
Mais, enfin, moi, j'ai souvent tendance à dire, parce que je compare beaucoup aux autres villes du monde dans lesquelles je peux me déplacer, c'est beau, mais c'est trop. On dessert trop de stations de métro.
Mais
on
comment ça peut être trop.
Mais tu veux dire que tu perds en vitesse.
Oui, exactement. Ah. Il y a beaucoup trop d'art entre les stations.
Mais à Paris, on est une toute petite ville. Alors, mais justement, on arrête de parler de Paris, mais une toute petite ville, donc encore du coup, c'est pas gênant.
Non, mais encore plus. Non, mais même quand tu vas à Lyon, tu as des lignes de métro, mais tu as les lignes de tram qui desservent aussi beaucoup de trucs.
Je pense que...
Avec des arrêts qui sont parfois, d'un arrêt à l'autre, visibles à œil nu. Enfin, je sais
tu
que
dis
des...
ça parce que toi aussi t'as deux jambes qui marchent plutôt bien. Pour une personne âgée ou pour des personnes qui sont en situation de handicap, franchement ils bénissent le fait qu'on ait des réseaux qui soient maillés de façon aussi dense.
Bien sûr, après les personnes en situation de handicap vont avoir beaucoup de mal à prendre le métro.
Oui, bien sûr, à Paris c'est une catastrophe.
C'est très compliqué, ça aussi on pourra en parler. Mais je t'assure, ça entretient aussi un tout petit peu de marché. Il y a beaucoup de pays dans le monde, des pays beaucoup plus gigantesques où il n'y a pas autant d'arrêt sur les lignes de métro, tu vois.
Alors attends, je vérifie en temps réel, mais par exemple, l'interstation à Paris de métro, je crois que c'est de l'ordre de 500 mètres, quelque chose comme ça. C'est
500 mètres.
Bah ouais, moi je vois pas le problème, je trouve ça génial.
Mais je t'assure que par exemple à Moscou, je crois que c'est plus d'un kilomètre.
Ouais.
Et c'est l'enfer. Enfin, parce qu'en fait, tu te rends pas compte parce que tu sais, t'as l'effet juste sur ta ligne, mais en fait, vu que tu croises toutes les lignes de métro, tu augmentes le pas de ta grille. Pardon, excuse-moi. Et ça dessert vraiment très très rapidement ton
maille de transport. Alors moi j'ai peut-être la solution, parce que j'ai vécu ça à Londres justement, c'est là où j'ai utilisé CityMapper pour la première fois, parce que j'ai beaucoup utilisé les bus et que si t'as pas une application, c'est un peu un labyrinthe sans fond. Et Londres, j'ai l'impression... Comment t'appelles ça, l'intersection ?
L'interstation.
J'ai l'impression que c'est plus grand qu'à Paris, mais du coup, vu qu'il y a un maillage bus-métro qui se complète beaucoup... Notamment grâce à des applications comme CityMapper. Oui. Là, on s'y retrouve. Alors qu'à Paris, ce qu'on disait la dernière fois, je crois, c'est que tu peux pas prendre ton ticket de métro pour un bus.
Je comprends pas.
Du coup, c'est beaucoup
plus compliqué. Vraiment, c'est un truc qui m'échappe. Je comprends pas pourquoi.
D'autant plus qu'à Londres, si je dis pas de bêtises, c'est la RATP qui gère les bus aussi.
Une partie.
Ouais. D'accord.
Je crois. Je peux me tromper.
Et pourtant, tout fonctionne avec l'Oyster, quoi.
Oui, non mais c'est pas... En fait, mais à Paris, c'est pareil avec ton Navigo, c'est juste que le ticket à Paris, je ne sais pas pourquoi, c'est un déplacement, c'est-à-dire que t'as le droit à ta correspondance, alors dans plein de villes de France, ton ticket c'est une heure.
Ouais.
Et je trouverais ça logique, enfin je veux dire, tu payes, en plus, enfin là c'est presque 2 euros, c'est 1,90€, 1,90€ quand tu dois faire 5 stations de métro, ça fait mal quoi.
J'avoue, en tout cas CityMapper c'est vraiment génial, surtout à l'étranger, là où on connaît bien entendu beaucoup moins bien le réseau. Alors bien sûr c'est souvent dans les grandes villes, mais pour voyager pas mal à Tokyo, je vous assure que CityMapper à Tokyo c'est tout simplement, c'est le Saint Graal, vraiment. Pour tout ce qui est type de déplacement et optimisation de tes temps de trajet, c'est vraiment assez fou. Et tu vas avoir tes vraies indications dans la langue locale. Notamment retard, bouchon, immense trafic, avoir beaucoup de conseils pour te désengorger un peu tout ça. Bon, là-bas, les métros sont tous climatisés, donc il n'y a pas vraiment besoin de choisir la rame.
Non, juste pour précision, parce que j'ai retrouvé le chiffre là, il y a 302 stations de métro à Paris, la distance moyenne entre les stations, elle est de 570 mètres, et le temps moyen entre les stations, c'est 1 minute 30. Mais c'est quand même pas mal.
Je vais peut-être faire mon vieux réac, mais je trouve que c'est beaucoup. Enfin, c'est
trop.
Après, à Paris, tu vois, imagine, tu fermes deux stations, c'est 1 kilomètre, quoi. 1 kilomètre, ça commence à faire un bout, quoi.
Ça justifie de prendre le métro.
Est-ce que vous êtes déjà allé à New York?
Ouais, il y a des régimes de métro qui sont semi-directs, c'est ça?
Non, mais c'est surtout que tu marches beaucoup.
Oui.
C'est insupportable.
Ouais,
ouais.
Non, mais alors. Attends, toi tu parles aussi parce que t'es un Parisien et que tu travailles dans Paris.
Je ne suis pas parisien et je ne travaille pas dans Paris.
Mais pour les touristes, C'est génial. Est-ce qu'on n'est pas réputé pour notre métro qui permet justement d'aller partout dans Paris
et qui a une odeur si particulière d'urine et de toilettes de boîte à 4h du matin.
C'est vrai.
Je laisserai le forum de qualité juger de la réputation touristique de la ville parisienne. En tout cas, mais oui, peut-être, à force, tu as sûrement raison, Chloé. En tout cas, voilà, CityMapper, merci. Mon très cher Victor, très utile. J'ai appris beaucoup de choses sur ce qui était possible de faire avec cette application. On va enchaîner avec la première news et c'est Chloé qui va nous parler de tout ça.
Je vais vous parler de Veligo. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Putain, c'est Vélib et Let It Go. Non, je ne sais pas.
C'est pas les parfums de vélo aux abords des stations parisiennes.
Alors, ça en fait partie. Veligo, c'est un nouveau service qui vient de sortir là, de vélo électrique en Ile-de-France à la location longue durée. Où en gros, c'est 40 euros par mois pour avoir ton Veligo personnel. Tu as accès du coup aussi à des parkings fermés aux alentours des gares. Et en fait, le but de ce que j'ai compris, c'est de donner envie aux gens qui ne sont pas utilisateurs de vélo de faire du vélo, notamment en banlieue parisienne, pour rejoindre Paris par d'autres biais que la voiture ou autre. Et je trouve que le système sur le papier est assez chouette. C'est du vélo électrique, donc c'est quand même plus facile d'accès pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est 40 euros, dont 50% peuvent être remboursés par l'employeur.
Ah, ça marche.
Ouais, ça marche dessus. Et
alors, peuvent, c'est pas. Je crois que c'est pas une obligation, alors que ta carte de transport, ça l'est.
Ah, ok, je savais pas.
Je crois que c'est à la discrétion de l'employeur. Mais
tu vas pouvoir faire des économies.
Et le seul truc, c'est que du coup, même si c'est de la location, tu es responsable de ton vélo. Donc si tu te le fais voler, tu dois rembourser 1200 euros. D'accord. Mais ce qui est pas très cher par rapport à un prix d'un vélo électrique,
c'est
au
vrai,
final.
C'est vrai.
Donc il faut juste que tu fasses attention. Bah, comme si tu avais un vélo, tu fais attention
c'est
à ton
vrai,
vélo,
vrai.
Quoi. Je sais pas quel est le prix moyen d'un vélo électrique,
non,
mais c'est
les bas de gamme, hein, 1200 euros.
Ouais, ouais.
Oui, je pense que c'est les entrées de gamme des 14
ouais,
200 balles.
Et tu peux louer, en plus de ton vélo, un casque enfant, un siège enfant. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je trouve que l'initiative est chouette. Pourtant, ça vient pas de Anne Hidalgo, donc moi qui suis fan ultime. Là, c'est sa concurrente Valérie Pécresse qui a lancé ça et j'aime bien l'idée. Et j'aime bien l'idée qu'on ne parle pas de Paris et qu'on parle justement un petit peu de comment on voyage à vélo en Ile-de-France.
Alors,
c'est un petit peu plus compliqué.
Pour décentrer encore un peu plus de l'Ile-de-France, la ville de Caen a lancé un service similaire.
Tu parles beaucoup de la Normandie, Victor.
Ouais, je suis désolé, je suis un peu monomaniaque, mais c'est le truc que je connais le plus. Mais en tout cas, je crois que c'est applicable à la ville de Caen aussi, qu'on nous critique de ne pas être. Enfin, c'est pas qu'on est trop parisiano-centré.
Je connais bien Caen, c'est bien Caen.
Du coup, je ne sais pas ce que vous pensez des Veligo.
Eh bien, écoute, moi je trouve que c'est une très bonne initiative, le Vélib. Lorsque j'ai voulu m'y intéresser et utiliser ça, venant de la banlieue, je me suis rendu compte qu'en vrai, mais en vrai, il n'y a pas de Vélib en banlieue. Je voulais venir travailler dans Paris et j'étais en banlieue et j'ai pas de Vélib. Alors c'est de moins en moins vrai, puisqu'avec le Grand Paris, Vélib s'étend de plus en plus à la périphérie, mais il faut quand même pas aller trop loin, sinon t'as pas de vélo. Après, bon, c'est.
Oui, puis en plus, il n'y a pas que des Vélib électriques. Donc c'est
oui.
compliqué.
Oui. Après, pour avoir un grand utilisateur de Vélib dans mes collègues, plutôt pas intérêt de partir après 19h du travail. Hein. Sinon, il n'y a pas un seul vélo.
Ouais.
Et l'autre effet pervers, c'est que dans les endroits où généralement les vélos sont dockés, bah, il n'y a plus de place.
D'où l'intérêt d'avoir ton propre vélo, mais où tu n'as pas l'investissement de départ à faire. Qui peut faire très peur aux utilisateurs de les
poursuivre. Oui, ça peut être une première étape, une première marche avant l'adoption et un achat personnel. Moi, de toute façon, toutes les initiatives qui permettent de faire adopter le vélo, que ce soit électrique ou pas d'ailleurs, enfin, hein, moi, tout est bon à prendre et surtout là, en plus, ça a l'air d'être quand même relativement intéressant au niveau prix. Donc voilà, moi, j'en pense que du bien.
Voilà. Top.
Bien sûr, et continuez évidemment de rouler de façon responsable, hein, même si vous avez un vélo électrique et les pleins pouvoirs. Inutile de rouler à 35 sur les pistes cyclables au milieu des piétons qui, je le rappelle, selon le panneau, et je viens d'en voir plusieurs avant de me rendre ici, sont prioritaires. Merci beaucoup. Merci Chloé. On va continuer avec la deuxième chronique et c'est moi qui vais m'y coller. Je vais vous parler de partage automobile et d'application de location. Voyez-vous, depuis 8 mois maintenant, je suis piéton. moi qui n'ai juré que par la voiture, jour après jour, qui me définissais même par la voiture. La voiture, c'était le travail, la voiture, c'était le seul moyen de faire des courses pour m'alimenter. La voiture, c'était le seul moyen à ma maman d'emmener ses enfants à l'école. La voiture était tout pour nous. Je me suis séparé de voiture, une voiture que je possède depuis mes 18 ans. Je n'ai jamais vécu sans voiture et voilà 8 mois que je vis à présent sans voiture. Me suis complètement habitué à la vie parisienne ou eh bien est-ce que j'évolue vers d'autres moyens de déplacement? Sincèrement, je me suis vraiment posé la question de l'utilité de la voiture à partir du moment où j'ai commencé à voir mon compte en banque diminuer grandement après jour après jour, ponctionné par le LOA qui est aujourd'hui le moyen d'obtention de la voiture le plus commun chez les Français. Voilà, c'est en train de devenir une mode. Et mon assurance qui, elle aussi, s'est fait bien entendu plaisir sur moi. Alors je me suis dit, je dois rendre ma voiture, je vais essayer d'aller revoir voilà, la voiture la moins chère que l'on peut avoir pour refaire un LOA et me dire, ça ne devrait pas être trop cher. J'ai vu des pubs à la télé, 99€ par mois, allez, c'est parti.
Le double du vélo quand même.
Voilà, c'est ça, direction Dacia, on y va. Bonjour monsieur, le vendeur d'automobile de chez Dacia. J'aimerais acheter une Sandero, 4 roues et un volant, s'il vous plaît. Combien est-ce que ça coûte? J'ai vu, c'est 99€. Ah, mais vous n'avez pas lu les petits astérix, monsieur? C'est 99€ avec un apport de 5000€ sur offre de reprise d'une voiture de moins de 50. Ça coûte combien en vrai? Eh bien, en vrai, ce monsieur m'a demandé pour 4 roues et un volant, une moteur essence qui ne fait à peine rouler, je ne sais même pas si ça peut atteindre les 130, 180€ par mois. Une Dacia Sandero, sans compter l'assurance. Je fais mon bon monsieur, je vous salue bien bas, j'ai quitté le concessionnaire déçu et je suis rentré chez moi en trottinette électrique pensant à mes deux enfants, car oui j'ai deux enfants, un âgé de 2 ans, l'autre de 1 an, et ces deux enfants, bien que je me permette de les laisser parfois seuls à la maison un week-end, bien entendu vous avez compris je parle de petits chats, je suis bien embêté lorsque je fais des trajets bien plus longs que cela, à savoir eh bien les grandes distances. Impossible de prendre le métro de Victor, impossible de prendre le vélo de Chloé. La SNCF me demande beaucoup trop, mon Vélib n'a pas assez de place, comment faire? Évidemment, le seul véritable moyen qui vient à moi, c'est la location automobile. Je suis donc passé par toutes les agences de location possibles et imaginables, et voici le procédé à exécuter lorsque vous allez chez eux. Déjà réservé en ligne via un site internet. Vous rendre chez eux, signer des papiers, vérifier l'état des lieux, re-signer des papiers, prendre les clés, posséder le véhicule et réitérer exactement le même procédé lorsque vous rendez le véhicule. La démarche, je ne vous le cache pas, est lourde, d'autant plus que, évidemment, il faut être sur des horaires de travail classiques pour aller louer la voiture. On travaille quand même un peu le samedi matin. Allez, mais venez tôt, hein, parce qu'on ferme à midi. C'est quand même très compliqué de s'offrir des week-ends agréables lorsque l'on va chez Quid Rent-A-Car, chez Quid, voilà, toutes les locations de voitures. Je me suis donc immédiatement intéressé à la possibilité de louer une voiture via des applications. Et là, mon monde s'est ouvert et une autre perspective, une autre vision de l'automobile s'est ouverte à moi. En effet, sachez-le, aujourd'hui, beaucoup de véhicules et d'automobilistes rendent leur voiture totalement en partage aux autres. En effet, il est possible, via des applications telles que WeCar, telles que Drivee, d'utiliser la voiture de monsieur et madame tout le monde inscrit sur le site comme un appartement en Airbnb. La voiture est utilisable à partir du moment où son propriétaire la met en voilà, disposition. Ainsi, juste à côté de mon travail, mon très cher Jacques-Édouard me prête son Qashqai pour 98€ par jour. Merci Jean-Édouard. Un peu cher ton Qashqai, je n'en ai pas besoin. C'est pas grave. Stéphanie a une Dacia Sandero que je voulais acheter en LOA. quoi, 35 euros par jour.
Ah mais du coup si tu fais une location quotidienne, ça fait cher quand même.
Évidemment, si tu utilises tous les jours. Mais bien que les Français passent 7h15 dans leur voiture par semaine en moyenne, en vérité, peu de gens utilisent la voiture si souvent. La voiture est souvent laissée au garage et c'est vrai que dans mon utilisation, à part quelques trajets en Paris pour faire des sorties, et à chaque fois je m'en mords les doigts parce que ça me coûte 40 euros de parking, ou finalement des trajets le week-end qui sont plutôt ponctuels, la voiture dort dans un parking, ne sert à rien et me coûte de l'argent. Comprends du coup tous ces utilisateurs qui mettent leur voiture en partage afin que la voiture qui leur coûte de l'argent leur rapporte de l'argent. Du génie, 88 euros par jour, 4 locations, j'ai remboursé mon LOA. Que faire? Est-ce que je reloue une voiture et j'utilise ce genre de système-là? Ou est-ce que finalement j'utilise évidemment les voitures des autres? Eh bien, j'ai opté pour utiliser les voitures des autres et j'ai testé moi-même du coup les services. Alors c'était WeCar, pas Drivee, hein, qui louait du coup les voitures à la journée, et forcé de constater que c'est plutôt très très facile. L'application te permet de louer la voiture très vite. Il y a évidemment des conditions avec des astérix absolument partout. Évidemment, il faut faire l'état des lieux de la voiture, mais globalement, tu te retrouves soit avec les clés, soit avec une ouverture qui est plus ou moins automatique, et tu repars avec la voiture très rapidement, beaucoup plus rapidement que si tu étais passé en agence de location. Autre service qui peut mettre à votre disposition des voitures, et ce coup-ci pour une utilisation bien plus locale. Vous voyez, quand je vous parlais d'aller déposer les enfants ou d'aller faire vos courses, souvent vous avez besoin d'une voiture, en fait pas pour une journée, une heure, deux heures, ça suffit. Louer à l'heure une voiture, aujourd'hui c'est possible. Des services comme Ubeco vous proposent des voitures en free-floating, utilisables à l'heure.
Tu fais très très bien le VRP, franchement c'est incroyable, j'achète, prends ma carte bleue.
Franchement c'est vraiment formidable, et les voitures sont laissées du coup dans des lieux évidemment qui ne sont pas qui ne sont pas des trottoirs.
Ah, contrairement aux trottinettes.
Les piétons sont, exactement, et vous pouvez prendre votre voiture et utiliser cette voiture. J'irai un peu plus loin du coup dans tous ces services-là, parce que sincèrement, et on en parlait beaucoup avec mon collègue Lamua, sincèrement, utiliser ou faire utiliser votre voiture lorsque celle-ci n'est pas utilisée, c'est aussi, bon, bien que la voiture ça utilise de l'essence, ouais, ça consomme tout ça, c'est aussi un moyen quand même de rentabiliser réellement des déplacements et de rentabiliser réellement une voiture et son achat, et ça peut vraiment drastiquement faire diminuer le nombre de voitures qu'il y a dans nos villes, ou même en tout cas ailleurs. J'ai découvert réellement mon Saint Graal à l'apparition de l'application Virtuo, encore une start-up montée de nulle part, qui propose tout simplement de louer des voitures. C'est vraiment Rent-a-Car, etc., Six, la même chose, de louer des voitures via une application pure et dure. Aucun rapport à l'humain. Je ne croiserai aucune personne, aucun être humain. L'état des lieux se fera via quelques photos de mon téléphone que j'envoie directement dans l'application. Je réserve depuis mon téléphone des locations qui vont de 1 à 2 jours. Et je ne peux louer, du coup, avec ce service, que des Mercedes. Dernier cri. Donc des voitures plutôt premium qui coûteraient une fortune à louer dans des agences de location habituelles, pour un prix vraiment défiant toute concurrence, 70 euros la journée, 80 euros la journée si c'est fort taux de fréquentation. Je dis, c'est pas possible, une Mercedes dernier cri pour 90 euros la journée, mais ils ont fumé, comment est-ce que ça peut fonctionner? J'ai donc moi-même testé ce service et je dois bien vous avouer que c'est prodigieux, hein. À deux pas de chez moi, dans un parking à Levallois, je descends, je vois la voiture que j'ai réservée, je fais 2-3 photos de l'état des lieux, mon téléphone ouvre la voiture via Bluetooth et me sert de clé pour utiliser le véhicule. Et en quelques secondes, je repars avec un véhicule flambant neuf pour me faire un week-end qui ne me coûtera que quoi, les 180 euros de location et l'essence et le péage évidemment qui sont obligatoires. Oui, mais voilà, Virtuo que j'ai du coup contacté pour le bien de cette chronique, et j'aurais demandé, écoutez, je comprends pas pourquoi c'est quand même aussi peu cher avec vos concurrents, c'est deux fois le prix. Bon, écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, nous utilisons un parc de véhicules neufs, évidemment en partenariat avec soit Mercedes, soit chez Fiat, ils ont des 500, des trucs comme ça. Mais nous avons un parc de véhicules autonome, donc avec les derniers équipements technologiques dedans, donc la conduite autonome, les reconnaissances de ligne, etc. Et ce qui m'expliquait, c'est que tous ces systèmes dernier cri font drastiquement baisser leur coût en assurance, puisque d'un point de vue des assurances, eh bien, ces voitures ont statistiquement moins d'accidents ou moins de risques d'accidents que les autres véhicules. Ainsi, grâce eh bien, à tout ce qu'ils peuvent économiser en assurance, et il y a des petites options, si tu veux prendre 5, tu peux payer 5 euros de plus, si ta jante est un peu rayée, si ton pneu a crevé, hop, c'est, ça sera pris en compte. Tu peux payer 20 euros de plus, si t'as vraiment un crash, c'est toi le responsable, c'est pas grave. C'est eux qui prendront en compte, t'auras rien à payer en plus.
Ah ouais, donc par ils ont intégré le truc.
Ils ont intégré un service d'assurance en plus par-dessus.
Putain la vache.
Et ils sont méga rentables grâce à la technologie. Et grâce aux avancées technologiques et grâce au parc de voitures qu'ils mettent à disposition. Tu te retrouves donc avec une voiture flambant neuve, dernier cri, qui te fait du coup tes trajets Paris-Lille, Paris-Troyes, Paris-Caen. Voilà, toute seule, voilà, t'appuies sur un bouton, voilà. Tu laisses l'autopilote et tu t'occupes de tes chats et de madame. J'utilise du coup beaucoup de services.
Et du coup, ils t'incitent à le faire. C'est-à-dire que ils te disent, voilà, si vous prenez votre truc, ils te disent, utilisez l'autopilote et conduisez le moins possible.
Non, pas du tout. Ah, et de toute façon, la voiture, enfin, je vous rappelle, l'autopilote, c'est qu'une aide à la conduite.
Ah oui, d'accord. Permet de pas en mode conduite autonome Tesla, c'est juste de dire t'as plein d'assistances qui permettent de diminuer l'accident.
Même aujourd'hui chez Tesla, il n'y a pas de conduite autonome.
Oui, oui.
On est uniquement toujours qu'au level 2 d'autonomie. Le level 3 ne peut fonctionner, mais n'est pas autorisé par les lois actuellement de déplacement.
Okay.
C'est quoi le level 3 d'autonomie? Tu rentres un point dans le GPS et la voiture fait tout toute seule. Tu vois, t'as vraiment pas besoin de faire ça.
Mais enfin, on refera une chronique sur les niveaux d'autonomie.
On est au 8e sujet d'idée de future chronique.
Ah bah, vous
pour la saison 75 de Commute.
Là, en 2021. Gros, c'est un régulateur adaptatif avec contrôle de trajectoire.
Okay.
Voilà. En gros, voilà ce que c'est la conduite entre guillemets autonome. Mais crois-moi, sur l'autoroute, c'est formidable, absolument formidable. Et je peux enfin emmener mes deux enfants et madame en week-end pour, sincèrement, à deux, une somme relativement modeste. J'ajoute même que si vous voulez optimiser vos temps de trajet, vous pouvez faire de la location et du blablacar afin de remplir la voiture qui peut comporter 4 places, 2 personnes qui vous atténueront le prix même de votre location. Et vous pouvez vous retrouver avec une voiture réellement disponible pour tout un week-end pour Kutchi Walou, pour peu que vous ayez trouvé eh bien, des covoitureurs pour faire votre trajet. C'est vraiment formidable. Et si je peux conclure en tout cas là-dessus, c'est que je suis intimement persuadé. Et quand bien même je suis très attaché à la possession d'une voiture, à la possibilité de pouvoir l'utiliser tout le temps, bien sûr lorsque j'aurai des enfants, quand je devrais utiliser la voiture de façon plus régulière, j'aurai probablement ma voiture personnelle. Mais je veux bien vous avouer que l'idée de mettre à disposition ce véhicule à d'autres personnes lorsque je ne m'en sers pas me séduit de plus en plus, et je trouve ça formidable, même si c'est pour des raisons économiques. Les gens qui font ça, c'est souvent beaucoup moins cher que des agences de location, beaucoup moins contraignant, puisque un simple smartphone peut vous faire tout ça. Et sincèrement, oui, ça peut aussi faire un peu de bien à nos villes et désengorger grandement le trafic. Imaginez une ville, sincèrement, où les voitures seraient tout le temps utilisées par tout le monde. Dès que eh bien, une voiture est non utilisée, elle est réutilisée par quelqu'un qui fait du coup le trajet qui lui est utile.
Et qui s'appelle Rio Autolib.
Ouais. Ceci pourrait fonctionner. Bah, le véritable problème d'Autolib, c'est que c'était le Love Hotel parisien le moins cher.
C'est crade.
Et que du coup, oui, c'est sûr, c'est un peu compliqué.
Si tu veux que ta Mercedes en location sente la clope et soit dégueulasse, c'était l'Autolib, quoi.
En vrai, le truc, c'est que, enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais lorsque vous louez un Airbnb, est-ce que vous faites vraiment la chouille dans le Airbnb et vous avez envie de tout foutre en l'air à l'intérieur de la maison?
Bah, moi, non, parce que je suis bien élevée, mais ouais. Oui. Il y a plein de gens
Moi, je suis un gars civilisé, je le ferai pas. Mais non, par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi, je suis un conducteur raisonnable avec ma voiture. Tu me files une voiture de location, je te la fume. Vraiment. Genre, ah ouais.
Même si elle appartient à un particulier que t'as.
Non. Si c'est un particulier, non, je le ferai pas. Mais
c'est
tu me files une C1 de Hertz.
Ouais. Parle bien des C1.
Mais à l'équerre, mais.
Parle vraiment bien des C1. Mais attends, mais je comprends. Et attends, Victor, explique-moi. C'est-à-dire.
Ah ben je pars en fond de première à tous les feux rouges juste pour rire.
Quel enfer.
Mais c'est horrible.
Mais oui, c'est
horrible. Sortez cette personne de cette pièce.
Je loue pas beaucoup de voitures. Non mais c'est pas.
Victor est un peu mon patient zéro parce que ce qui met en évidence c'est que la voiture d'un autre, donc d'un particulier, tu vas avoir moins tendance à vouloir la vriller qu'une voiture de location.
C'est clair.
Et en vrai, le problème de l'autolib, c'est que les voitures n'appartiennent à personne. Là, tu vas louer des voitures qui appartiennent à quelqu'un réellement. Et je ne sais pas pourquoi, mais même si t'es l'homme le plus mal élevé du monde, comme ça appartient à quelqu'un, que t'as vu son visage, oh, il est trop mignon sur la photo du site, là.
Oui,
t'as envie de lui vriller sa voiture.
Là, ce que tu disais, c'est que t'avais pas de contact humain. Donc, du coup, ça déshumanise
un peu. T'as quand même la photo du mec, tu sais que ça appartient à quelqu'un. Tu sais que c'est pas une voiture de location lambda quand même. Bref, moi, après, c'est peut-être moi et ma vision du monde. Voilà, pense que les gens sont bons et les gens sont bien, mais n'empêche que la voiture à la demande via des particuliers, c'est bien. Et je terminerai du coup ma chronique là-dessus. Sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de marques automobiles, actuellement encore premium, font du coup des services lorsque vous achetez une voiture qui permettent à tous ceux qui ont acheter une voiture de la même marque, d'utiliser les voitures des autres, pareil, de la même marque. Ce que font actuellement, d'ailleurs, en Allemagne, actuellement, beaucoup de berlines allemandes. Ainsi,
si tu as la chance d'être propriétaire d'une BMW dernier cri, tu obtiendras, si tu le veux, bien entendu, hein, c'est une option, un badge qui te permettra d'utiliser la BMW de quelqu'un d'autre à Cologne, alors que tu es de Berlin, voilà, qui,
à 1000 options possibles. Bien sûr, tu vas récupérer d'ailleurs un peu d'argent par rapport à ça, mais voilà, ce monsieur qui t'a mis la voiture à disposition pourra lui aussi utiliser peut-être ta voiture lorsqu'il sera à Berlin, etc. Ce qui est, ma foi, fort pratique. Voilà.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai plein de questions.
Moi, j'ai plein de remarques complémentaires. Je te laisse.
D'abord, la question écolo.
Oui.
Est-ce que ça incite pas à renouveler le parc de voitures en location plus souvent?
Oui, alors ça, les parcs de voitures de location, de toute façon, sont quand même assez renouvelés tous les 3 ans avec les nouveaux modèles.
Ce qui est peu quand même, de vie de voiture.
Aujourd'hui, même les gens qui achètent des voitures en LOA vont renouveler leur voiture tous les 3 ans.
Mais est-ce que c'est pas un souci?
Ah bah ça, je te dis pas. En tout cas, ça fait le beau jour de notre économie, puisque les occasions, les voitures d'occasion à court terme se vendent comme des petits pains. Et d'ailleurs, les entreprises qui vendent des voitures se resucrent sur les ventes d'occasion, là où ils se sont sucrés sur ton dos, sur le LOA. Crois-moi, ils sont bien. Hein. Tout le monde s'y retrouve.
Je vous spoil, peu importe comment tu retournes le problème de l'utilisation de la voiture, peu importe comment tu l'utilises, la voiture propre n'existe pas.
Non, mais la voiture qui dure longtemps et que du coup, qui est amortie, son bilan carbone est amorti sur 15 ans, sera toujours plus intéressante qu'une voiture renouvelée tous les 3 ans.
Je sais pas,
je sais pas.
Après,
je te ferai une autre chronique sur l'analyse de cycle de vie.
Mais pas forcément.
Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, étant donné que plus t'achètes une voiture récente, souvent moins elle a une empreinte carbone élevée.
Faisons une chronique là-dessus aussi. J'ai lu un article très intéressant là-dessus.
C'est compliqué.
Oui,
c'est vraiment des sujets compliqués.
Il faudrait mieux arrêter de produire des nouvelles voitures. Après, la question, c'est de savoir si tu fais circuler. Admettons même un tiers du parc automobile, mais qui se renouvelle plus souvent, je pense que ça peut être... Enfin, c'est pas plus respectueux de l'environnement, juste tu détruiras la planète un peu moins vite. Je pense que ce sera comme ça.
D'autres questions, Chloé?
Oui, alors parce que moi, j'ai une voiture.
Oui.
Et vu que il fut un temps où j'avais pas de sous, j'ai beaucoup utilisé Drivee pour louer ma voiture.
Ah, tu l'as fait?
Je l'ai fait, j'ai gagné plein de sous avec. Alors, c'est très chouette, mais ça prend beaucoup de temps.
Ça prend du temps.
Ça prend beaucoup de temps et ça abîme beaucoup plus la voiture.
Bah évidemment, ça c'est sûr.
Puisque quand bien même il y a des gens comme toi, Ken, qui pensent à la tête du loueur, une voiture qui est utilisée par quelqu'un d'autre, même si c'est bien utilisé, les différences de conduite vont beaucoup plus abîmer la voiture.
C'est vrai.
C'est comme les voitures d'auto-école qui meurent en 2-2, des choses comme ça.
Complètement vrai.
C'est sûr.
Et Et puis voilà, on a toujours le même problème comme dans nos chroniques de la dernière fois, c'est que le moyen de locomotion est intéressant, mais l'utilisateur est toujours problématique. J'ai un utilisateur de ma voiture une fois qui s'appelait Lamua, je crois, et qui a oublié d'éteindre la lumière. Et donc du coup, moi, je louais ma voiture le lendemain. Et j'ai eu la personne au téléphone qui m'appelle, moi je sortais du lit, et qui me dit, moi je pars en week-end avec votre voiture, et elle n'avance pas, elle ne s'allume pas. Et donc, du coup, moi il a fallu que je me débrouille,
les câbles,
tout ça, et donc voilà. L'utilisateur posera toujours problème en fait dans ce genre de choses.
Ou la MUA posera toujours problème.
Oui. Mais ça, c'est une notoriété publique.
Tout à fait. C'est vrai qu'en effet, c'est un problème. Bien sûr, ta voiture va s'utiliser beaucoup plus longtemps. Lorsqu'elle dort, elle ne te rapporte rien.
Mais pour la petite anecdote...
Mais elle ne s'use pas.
Déjà, moi, je trouve ça très bien comme concept, hein, parce que j'aime bien que la voiture, effectivement, soit stockée.
T'as gagné combien en tout avec ça?
En fait, je ne faisais pas beaucoup, mais je me faisais des mois à 300 quand même. Tu vois,
ça remboursait ta voiture,
ouais,
en vrai.
Moi, dès le moment que ça remboursait, je le faisais au moins une fois par mois pour que ça me rembourse mon essence.
Oh, ouais, c'est bien quand même.
Et j'ai loué à des célébrités.
Non.
Donc je tairai le nom, mais j'étais hyper contente. Alors que c'est une C1 de 2009. Donc elle a
rien
d'exceptionnel.
Tu vois, parle bien des C1,
Victor. Je parle très bien des C1, j'adore ces voitures. Non, moi j'ai deux petites remarques complémentaires, mais c'est pas forcément des questions, c'est juste des petits points de complément. Je sais pas si t'as été au salon de l'automobile l'année dernière.
Si, j'y suis allé, ouais.
Je sais pas si t'es un fervent pratiquant ou pas du
salon, j'y vais tous les deux ans du coup.
Ok. Je sais pas si t'as remarqué comme moi, il y a eu quand même un gros shift des constructeurs automobiles qui proposaient avant des grosses voitures avec plein de trucs.
Yes.
Il y a quand même vraiment un changement de mentalité sur le mobility as a service. Donc en gros, la mobilité comme un service. Donc c'est-à-dire que les gens déjà n'achètent plus de voitures, enfin achètent moins de voitures, ils passent souvent par le LOA.
Ouais.
Et il y a plein de constructeurs qui proposent des services maintenant, comme ce que tu viens de dire, pour partager des voitures.
C'est au salon de l'auto que j'ai découvert ça d'ailleurs.
Ouais. Et moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est les services, je crois que c'est Peugeot, pour leur nouvelle 208, pour pas les citer, électrique, la 208. Ils te proposent de faire la LOA de la voiture et de payer un petit extra pour avoir une location de voiture thermique quand tu pars en week-end sur des trucs à longue distance.
Voilà. Okay.
Donc du coup, tu pallie un peu le manque d'autonomie des voitures électriques. Ça, je trouve ça très intéressant. Mais du coup, là, c'est pareil, tu loues pas un particulier, tu as un parc qui est optimisé.
Ouais.
Et je trouve ça très chouette, mais du coup, ça reste quand même très lié à la culture de la voiture, de la marque, du machin. Alors moi, ça me plaît beaucoup parce que je suis être inférieur
qui a la culture de la marque.
Ouais, non, mais qui cède aux sirènes des trucs qui sont flashy, qui font du bruit. Mais je sais que c'est pas bien. Dissonance cognitive, bonjour. Le deuxième point que je voulais soulever, c'était que ce truc-là existe depuis très longtemps. Ça s'appelle les Automobile Clubs, sauf qu'avant c'était un truc de gros riches qui se prêtaient ses Ferrari.
C'est vrai, c'est tellement vrai.
Pour les moins connaisseurs de nos auditeurs, les Automobile Clubs, c'est une sorte de truc où tu vas garer ta voiture, qui est en général une exception, enfin une voiture de collection qui coûte très très cher. Tu payes un abonnement à l'année et en gros tu peux rouler tout le parc d'automobiles que tous les autres utilisateurs qui sont riches comme toi. Laissent leur voiture d'exception. Et donc du coup là en fait l'intérêt ce serait de faire ça mais pour le commun des mortels et le peuple, mais sauf que là ce sera pas des Ferrari, ce sera des Clio électriques.
C'est un peu ça, c'est peut-être vers ça en tout cas qu'on se dirige juste ici. Chloé.
Oui, j'ai encore deux petites questions, Ken.
Ouais.
J'ai oublié ma preuve. Ah oui, vous dites LOA depuis tout à l'heure, je suis un peu noob.
Location avec option d'achat. Voilà.
Okay.
Un peu à opposer avec le LLD, location longue durée.
Okay.
Lorsque tu contractes un LOA, tu possèdes du coup ta voiture. Juste au bout de 3 ans, on te propose du coup de solder le crédit que tu as pris auprès de ton concessionnaire. Dans le cas de la location longue durée, tu es juste locataire d'une voiture, tu ne la possèdes pas. Donc dans le cadre d'un LOA, à la fin de tes 3 ans, quand tu dois rendre ta voiture, plutôt que de la rendre, tu peux la revendre.
Okay.
Tu peux l'acheter ou tu peux la revendre à un particulier et solder ton crédit avec le prix de cette revente. Ce qui est d'ailleurs conseillé de faire, puisque évidemment, lorsque tu vas rendre la voiture, elle va te coûter de l'argent, puisque souvent, le locataire va prendre, le concessionnaire dira, il y a un petit pet là, il y a un petit pet là, ça vous fait 2500 euros. C'est ce qui m'est arrivé.
Ma deuxième petite anecdote, ouais. c'est les limites technologiques.
Ouais.
C'est que souvent, ça se fait par une application. Effectivement, tu n'avais croisé personne. Ouais. Et que souvent, les voitures sont dans des parkings.
Oui,
parkings. Alors, j'ai eu exactement le même problème avec une C1, figure-toi, pour aller chercher un meuble.
C'est peut-être la mienne.
Totalement
c'était
vrai.
C'était une C1 blanche au parking gratuit de Val-de-Fontenay. Alors je sais pas si c'est l'imbécile d'avant qui l'avait réglé, enfin qui l'avait garé là, mais un endroit où il n'y avait pas de 4G, donc pour faire le check-up de la voiture, j'ai dû faire prendre des photos et faire des allers-retours pour aller choper la 4G en haut du parking, sachant que l'application ça resetait parce que il fallait que je recommence machin. J'ai pété un câble.
C'est exactement ce qui m'est arrivé lors de ma première location avec Virtuo. Ils sont partenaires avec les parkings Indigo, donc toutes les voitures sont garées à un étage des parkings Indigo.
Au moins 6 sans 4G.
Tu reçois ta clé, t'es tout content, t'arrives dans le parking, tu descends, tu lances l'application, hop, bah y a pas de connexion, tu peux pas te connecter, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, ça fonctionne, le seul truc méga embêtant, c'est que bah, quand tu dois faire l'état des lieux, tu dois prendre des photos et les envoyer sur Internet. Donc tu prends les photos, tu remontes, tu les envoies sur Internet, tu redescends et t'ouvres ta voiture. Voilà, en effet, installer des bornes Wi-Fi dans les parkings, s'il vous plaît. C'est la fin de cette deuxième chronique et on va passer à la deuxième news. C'est toi, Victor.
Eh bien, je vais vous parler via Navigo, mais pas du tout de l'application. Enfin, si, un peu, mais de la dématérialisation du Pass Navigo.
C'est quand ?
Arrive à la fin du mois.
Oh.
Sauf qu'il y a plein de petites étoiles pour le faire. Donc, je vais vous parler un peu de comment moi ça s'est passé pour mes 6 derniers mois, parce que j'étais testeur Navigo Labs, donc j'avais mon Pass Navigo qui était dématérialisé sur mon téléphone. Donc c'était une bêta test, il fallait s'inscrire sur un site et on t'avait le droit à une application que tu pouvais pas télécharger normalement sur l'App Store normal. Et du coup, t'avais ton Pass Navigo sur ton téléphone que tu pouvais recharger. Alors sachant que ton Pass Navigo, c'est uniquement au mois ou à l'année, et tu peux acheter des tickets de métro par 10.
C'est la question que j'allais te poser.
Tu peux acheter des tickets de métro par 10, tu peux pas les acheter à l'unité, tu peux pas acheter des tickets de métro pour aller en Île-de-France, machin. Donc en gros, c'est quand même assez limité. Du moins, moi, c'était le côté bêta testing. Et à la fin du mois, ça arrive pour tout le monde. Tout le monde, sauf les gens qui ont un iPhone. Tout le monde, sauf les gens qui ont une liste de téléphones long comme le bras qui ne déverrouille pas l'accès à la puce NFC du téléphone. Donc il vous faut un smartphone avec une puce NFC ou être abonné chez Orange, parce que Orange fournit des cartes SIM avec NFC. Donc moi par exemple, j'ai un téléphone qui n'est pas compatible normalement avec le truc Navigo, mais j'ai une carte SIM Orange, donc du coup ça marche.
Mais c'est terrible quand même.
Voilà, donc c'est pas du tout pratique, mais c'est une avancée dans la bonne direction, du moins pour la dématérialisation du truc.
Mais alors on peut payer en dématérialisé quasiment tout le temps partout. Ouais. Comment se fait-il? C'est un problème d'infrastructure avec les bornes de métro, c'est quoi le souci?
Non, pas du tout. L'iPhone, c'est juste parce qu'il ne laisse pas l'accès aux puces NFC à autre que leurs applications à eux pour l'Apple Pay. Je crois que c'est ça la raison. Pour tous les autres téléphones, c'est parce que t'as des qualifications de sécurité par téléphone qu'il faut payer. Donc en gros, il faut se faire certifier pour être suffisamment sécurisé. Et donc du coup, par exemple, tous les téléphones chinois que Daz affectionne tant ne sont pas certifiés.
Voilà. Ça n'est pas certifié. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Chloé, mais moi, j'ai hâte du jour où les cartes de transport, les cartes bleues, les tickets, les machins, tout ce qui est matériel et qui nous encombre et que tu perds et que c'est chiant, disparaissent pour laisser place à du full démat dans nos téléphones ou autre chose, ou une carte dédiée, je n'en sais rien.
Je vais faire ma vieille, mais moi, ça me fait un peu peur. Je sais pas, tu perds ton téléphone, je sais pas. Et en plus, là, pour la question du Navigo, je suis pas concernée vu que j'ai pas de Navigo, mais je trouve que le principe est génial. Mais avant même d'avoir ça, ce serait bien d'avoir une seule et même carte.
Oui, non, bien sûr.
Une Oyster card parisienne.
Bien sûr.
Une baguette card.
Le truc, une baguette card.
J'achète la baguette card.
Non, puis alors, par contre, pour le coup, de la perte de téléphone, l'une des grosses limitations, c'est qu'un Navigo, tu vas dans n'importe quelle boutique, tu peux le dupliquer et tu bloques l'ancien. Si tu perds ton téléphone, tu perds ton mois en cours.
Donc
c'est quand même relativement contraignant. Ouais.
Souvent sur des téléphones qui coûtent cher, je pense que c'est pas le mois en cours qui sera très très grave.
Ouais.
Mais bon, oui, c'est vrai.
Tu as premier pas dans la bonne direction, mais il
donc ça arrive quand exactement, Victor ?
Le 30 septembre.
Le 30 septembre pour tout le monde, sauf tout le monde. Très bien. Merci beaucoup. On va passer du coup à la troisième chronique. Et c'est toi, Chloé, qui nous a vraiment testé tout ce qu'il était possible, imaginable de tester comme GPS. Même monsieur, c'est fou.
Alors, effectivement, je me suis lancée dans le test des applications de navigation routière. Et j'ai découvert un nouveau monde.
Ah.
Attachez vos ceintures, c'est parti. Il faut savoir que je suis née dans les années 80. J'ai passé mon permis en 2000, donc je n'ai pas connu, moi, les GPS. Je faisais les itinéraires à l'ancienne avec des cartes. Je regardais avant de partir où aller. J'ai eu ma voiture un peu tardivement, donc je n'ai même pas connu les GPS type TomTom ou intégré aux voitures. Et quand j'ai eu ma voiture, c'est posé la question de comment je fais pour aller où. Et moi, je suis très basique. Hein. Moi, je regarde les applications qui étaient intégrées dans mon téléphone. Donc, en général, c'est Google Maps qui marche bien pour tout le monde ou Apple Plan qui marche pour personne, mais qui est intégré dans les téléphones. Et pour cette chronique, du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? Eh bien, oui. Et alors là, je suis tombée vraiment des nues parce qu'il y en a une flopée qui se divise en deux grandes catégories, les applications payantes et les applications gratuites. Bien évidemment, je me suis intéressée qu'aux applications gratuites, vu que FibreTik ne m'a pas donné accès au Patreon.
Oh là là, celui-là alors, quelle pince.
Alors, il y en a plein. Hein, donc il y a Waze, Google Maps, TomTom Go, Irwigo, Cigic, Mappy, MapsMe, Carta, GPS, Coyote, Copilote Navigation GPS, wow. MapFactor, MapQuest, WeCanGo, Osmond, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai pas tout listé parce qu'il y en a trop. Donc je me suis intéressée au gros du marché.
Ouais.
Le gros du marché, bien évidemment, c'est Google Maps et Waze. Alors Google Maps, il nique un peu tout. Hein. Tout de suite, je n'ai pas les chiffres utilisateurs parce qu'en fait, Google Maps, la particularité, c'est qu'on peut l'utiliser pour autre chose que de la navigation routière. Moi, je l'utilise dans Paris pour plein de trucs ou pour regarder sur Google Street View des jolies choses. Ou voilà. Waze, alors, encore une fois, je suis un peu à l'ancienne. Moi, je ne connaissais pas bien. Parce que vu que j'étais sur Google Maps, bah, je cherchais pas à faire autre chose que de la navigation où moi je tapais ma destination, ça m'emmenait là-bas et j'allais pas chercher plus loin que ça. Sauf que j'ai découvert un peu Waze. Et Waze, c'est actuellement en France 13 millions d'utilisateurs quand même,
c'est gigantesque.
Énorme. Ouais. Alors faut savoir que c'est un peu le combat des chefs, mais ce qui est marrant, c'est que Waze a été racheté par Google en 2013.
Je savais même pas.
Si, Waze fait partie de Google pour la modique somme de 996 millions d'euros, ce qui est pas mal.
Une broutille.
Une petite broutille. Et du coup, c'est aussi pour ça que depuis quelques temps, Google Maps s'est un peu amélioré et reprend en fait
les fonctionnalités de
Waze, notamment le recalcul en direct de ton itinéraire s'il y a des embouteillages ou des choses comme ça. Donc, parlons un petit peu de ces deux géants. Comme je vous disais, Google Maps, il y a plein d'autres utilités que de la navigation. Waze, le gros point positif pour lequel c'est utilisé, c'est la détection de radar à la base. Et d'ailleurs, ça marche pour beaucoup d'autres applications. C'est aussi comme ça que Coyote était le numéro 1 en France avant Waze. C'est parce que les gens, en fait, ils cherchent pas que d'aller d'un point A à un point B, ils cherchent à y aller sans avoir trop d'amende.
Ouais, c'est ça.
Parce que les gens, bizarrement, ne respectent pas le code de la route. Alors moi, ça m'étonne un peu. Donc c'est pour ça que c'était pas dans mes critères de recherche. Ah, il y aurait une autre utilité à découvrir les radars.
Non, mais les radars, c'est pour les respecter. C'est pour respecter la vitesse.
Bien sûr, au moment où le radar apparaît.
Mais cela dit, si tu roules à la bonne vitesse, tu n'as pas besoin de détecter les radars.
C'est pour que tu ne freines pas de façon inopinée devant le radar.
D'ailleurs, coup dur pour les applications en 2012, décret qui tombe, tu n'as pas le droit d'indiquer précisément la place des radars. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour pas mal d'applications. Alors, aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est indiquer les zones de danger. Donc, en gros, c'est sur 4-5 km, ils disent par là, il y a un radar. Et l'intérêt de Waze, et c'est pour ça que Waze a quand même bien explosé ces dernières années, c'est que il y a la fonction de discuter entre utilisateurs et dire « Eh les gars, il y a un radar par ici. »
Réseau social.
Donc, c'est aussi pour ça que ça marche pas mal.
Et oui.
Donc aujourd'hui, pour revenir à nos applications, en gros aujourd'hui pour fonctionner, il faut présenter autre chose que juste de la navigation. J'ai listé un petit peu les choses que les applis proposent et c'est assez hallucinant. Moi, je tombe des nues, quoi.
J'ai hâte.
Bon, déjà, on vient de le dire, le recalcul d'itinéraire en direct, ça, c'est génial, c'est pratique. J'ai l'alerte en cas de dépassement de vitesse. Alors là, j'ai rigolé toute seule devant mon ordinateur, puisque vous avez un compteur de vitesse, les gars, mais apparemment, il faut des alertes.
Mais là, t'as un rappel sonore qui te dit attention.
Ouais, je suis un peu de mauvaise foi, mais je trouve ça débile, mais je suis un peu de mauvaise foi.
C'est très agaçant.
Il y a sur certaines applications un marquage de la position où vous êtes garé pour tous les gens qui perdent leur voiture.
Génial ça.
Ça peut être pratique effectivement.
Pourquoi tu ne roules pas avec Kit de K2000 ?
J'aimerais tellement. Ah, mais il n'y a pas ça d'ailleurs. Ah, bah si, c'est un peu ça, parce que justement, il y a la possibilité de personnaliser les voies de navigation. Dans Waze, tu peux t'auto-enregistrer.
Non.
Si, c'est génial.
Énorme.
Et ils font des opérations régulièrement, Waze, où ils mettent des célébrités, en fait, pour un temps donné. Et je crois qu'il y a quelques semaines, c'était DJ Khaled qui te guidait. Je trouve ça un peu.
Non, Daz. Daz.
Daz, effectivement.
D'accord.
Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé Waze.
Et ouais, c'est pas mal.
Ah,
hein.
Oui, si, il y a eu une année où, quand il y a un Terminator qui est sorti, c'était Schwarzenegger.
Tu peux faire plein de trucs. C'est génial.
Tourne à droite.
On a. Sarah Connor. Bien sûr. Alors, ça, c'est génial, je trouve, comme featuring. C'est comme feature, pas featuring. On a la possibilité de télécharger les cartes pour être en hors connexion.
Ouais,
très, donc, très bien.
Du coup, utiliser quand même le GPS, mais sans être.
Google le permet aussi.
Alors là, je le dis pour tous. Hein.
Ok,
là,
d'accord, c'est pas spécifique à Waze.
Non, c'est pas spécifique à Waze. On a l'indication du carburant le moins cher autour de vous. Ça, c'est pratique aussi. Et toutes les enseignes à proximité qui ont payé pour apparaître. Donc, ça, c'est beaucoup dans Waze. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arrêtez à un carrefour, il va vous dire hey, il y a la Pizza Pino pas loin de chez vous. Et c'est deux pour le prix d'une si vous voulez y passer. C'est aussi un peu comme ça qu'ils font leur beurre, donc pourquoi pas. Mais apparemment, je ne suis pas une utilisatrice de Waze, mais apparemment, c'est un peu relou. Parce que ça pop beaucoup sur les écrans.
C'est à chaque fois que tu t'arrêtes seulement. Pour ne pas te distraire.
Je ne suis pas sûre.
C'est-à-dire okay. que le bandeau d'annonce, en gros, qui te dit, voilà, vous avez un McDo ou un Burger King à proximité, vous pouvez ajouter ça comme étape. Ça ne marche que quand tu es à 0
km. Ok, bon, c'est déjà ça.
Mais sur ta carte, quand tu recherches un truc, il te met les enseignes quand même autour sponsorisées.
D'accord, Victor.
Donc, on est à la limite, parlons-en après si vous voulez. Et alors, un truc que j'ai découvert en termes pratiques, il y a certaines applications, notamment Waze et notamment Cigic, si je prononce bien, qui proposent le mode de nuit où tu poses ton téléphone sur ton tableau de bord et du coup, ta navigation se fait sur le pare-brise. En réflexion du truc. Ça s'appelle le mode tête haute. Wow. Et je trouve ça génial.
Énorme.
Un mode, qui fait un mode tête haute.
Alors, c'est Cigic et Waze apparemment le fait aussi.
Je fais ça.
Sans le truc de
donc,
tête haute.
Donc, depuis que j'ai appris ça, je cherche toutes les occasions pour rouler de nuit. Limite, j'ai envie d'aller faire des tours de périph. Pour essayer ça.
L'option tête haute, quand elle est intégrée dans les voitures, c'est vraiment très pratique. De jour comme de nuit.
Ah ouais ?
Vraiment très, très pratique. Ouais.
J'ai trop hâte. Waze, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Parce que Waze, il fait encore des choses en plus. Vraiment, Waze, c'est pas sponsorisé par Waze cette chronique, mais c'est génial. Il peut intégrer toutes tes applications musicales dans l'application directement.
Spotify, Deezer, tout ça.
Comme ça, t'as tout à portée de main. Il intègre vraiment depuis peu de temps un système de partage d'itinéraire du covoituring. Donc tu dis juste où tu vas.
Tu m'as dit,
Et alors, truc, accrochez-vous, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il peut envoyer un texto à vos contacts avec votre heure approximative d'arrivée, en linkant vos contacts à l'appli.
Mais ça, c'est génial.
C'est assez fou.
J'oublie tout le temps.
Et la dernière chose, je suis tombée dessus hier quand je l'ai ouvert, c'est qu'il vous propose de vous alerter pour ne pas oublier votre enfant dans la voiture.
Non !
Voilà, donc en fait, Waze, c'est votre maman. C'est intéressant. Je trouvais ça génial et à la fois, j'ai trouvé ça un petit peu déresponsabilisant, on va dire.
On est sur de l'assistana quand même.
Là, j'attends qu'ils sachent où est trouver ta place, commander ta bouffe, allumer ta lumière chez toi. Enfin, ce serait génial, quoi. Et surtout, du coup, je me suis posé la question, toutes ces features, comment tu fais pour les gérer quand tu conduis? Parce que du coup, ça te donne un tableau de bord monstrueux. J'ai remarqué que Waze ne t'autorise pas à toucher ton téléphone si t'es le conducteur et que t'es en mouvement. Mais, donc ça c'est déjà pas mal, mais le reste, en fait je crois que c'est pour ça que je me suis jamais intéressée à Waze, c'est que moi en fait quand je monte dans ma voiture, j'ai pas prévu avant de tout décider et je mets juste mon point d'arrivée et je fais avec. Pour les gens qui sont à fond, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis surtout, ce que j'ai découvert avec Waze, c'est que c'est une communauté. Waze, il s'est basé sur son petit ancêtre qui est la Sibi, en fait. C'est que les gens peuvent partager toutes leurs informations en direct. Donc, bien sûr, quand il y a des accidents, les embouteillages, les radars. Et puis, toutes les cartes sont en open source, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont atteint le niveau de changeur de cartes. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est un peu le niveau top premium de Waze. Et c'est que tu as le droit de changer, en fait, les cartes.
C'est un MMO mapping.
Ouais, mais quand tu as une route, par exemple, quand tu as une route qui est ouverte, genre une nouvelle bretelle d'autoroute, tu vois, genre il y a plein d'autres GPS.
Ça se met pas à jour direct.
Dans la nature, machin.
Ça, c'est vrai.
Là, il te dit, il détecte, en gros, si tu as suffisamment de personnes qui sont passées au même endroit, il te dit, ah, bah là, il y a sûrement une nouvelle route.
Ok.
Mmh. Et je trouve ça assez génial. Et puis, ouais, c'est mignon. Ta voiture a un avatar. Et il y a les avatars qui changent en fonction de l'actualité. Et tes avatars ont des petites émotions. Donc, moi, hier, j'ai choisi l'avatar timide. Je suis une petite voiture timide. Donc, j'aime beaucoup. Et plus tu roules, plus tu peux avoir accès à des super avatars. Ça m'a rendu folle de voir ça. J'ai vraiment envie de faire 4000 km maintenant juste pour avoir le petit avatar avec l'épée. Alors, c'est pas écolo.
Mais quel enfer.
Ça donne envie quand même.
Quel enfer. Il y a des loot box aussi.
Bah, je vais... Non, mais je te dis, je pense que je vais prendre ma voiture ce soir et rouler quoi, pour
tu
voir.
Tu vas rouler sur le périph pour avoir l'affichage à la tête haute et pour avoir l'avatar épée. Nickel. La
ça
qualification
va être trop bien. Ça
GPS.
Va être trop...
Mais en fait,
c'est, mais c'est un réussi. Jeu vidéo ton
en fait,
truc,
ils ont réussi.
Là.
L'application est mignonne. Il y a 1000 petits trucs à faire. C'est génial. Et en plus, la communauté a l'air super sympa. C'est une vraie grosse communauté. Je suis allée voir les comptes Twitter de Google Maps et de Waze, il n'y a pas photo. Google Maps, c'est vraiment chiant. Waze, c'est trop rigolo. Ils sont le CM qui est derrière. Je sais pas. J'ai envie d'être pote avec lui. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant comme nouvelle façon de voir la route. Parlons un petit peu de l'utilité.
Et oui.
Est-ce que du coup, vu qu'il y a un calcul de recalcul d'itinéraire en direct, est-ce que Waze a mis fin aux embouteillages? Bah un peu. On peut le
ça,
dire.
Ça marche. C'est
en
pas.
En fait, c'est hyper
ça
intéressant.
Pas le problème.
Eh ben non, parce qu'ils ont un algorithme hyper intéressant, c'est qu'ils vont le déporter un peu. Et puis quand ils voient que l'itinéraire bis est un petit peu trop rempli, eh ben ils remettent sur le premier itinéraire, ce qui fait que c'est jamais complètement ouais. complètement embouteillé. Sauf que bien sûr, il y a des ratés. Il y a des ratés notamment sur toutes les petites villes aux alentours des autoroutes ou des grosses voies qui sont beaucoup embouteillées, qui se retrouvent avec toutes les voitures maintenant. À tel point. Et là, c'est génial, c'est que les gens qui habitent dans ces petites villes ont compris l'intérêt de Waze, se sont inscrits et annoncent des faux embouteillages dans leur rue pour ne pas qu'il y ait un itinéraire bis chez eux. C'est fou, on arrive vraiment à faire des trucs très très compliqués.
Franchement, Blade Runner, c'était plus rigolo, hein, parce que là, la dystopie technologique, c'est chiant.
Ah là 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 là.
Et il y a du coup, régulièrement dans les news, si vous vous intéressez un peu à ça, des situations un peu cocasses. Dernièrement, j'en ai vu une aux États-Unis où il y a eu un accident sur une autoroute. Ça propose un itinéraire à plein de gens. Et toutes les voitures se sont retrouvées dans un champ boueux, qui n'était pas du tout une route. Mais vu que l'itinéraire montrait les voitures et que les voitures voyaient qu'il y avait d'autres voitures qui y allaient, ils y sont tous allés, ils sont tous restés embourbés.
Ah, oh, les boutons de panurge 2.0,
complètement,
c'est
mais on
incroyable.
Est un peu tous comme ça.
Ça ne peut arriver qu'aux États-Unis, ça.
Et d'ailleurs, là-dessus, Google Maps a fait un petit article en disant « Nous encourageons tous les conducteurs à respecter les lois locales, à rester attentifs et à utiliser leur bon sens lorsqu'ils sont au volant. » Demander à des gens d'utiliser leur bon sens. Dites donc, c'est
ils
bien rigolo tout
capables,
ça.
Ils en sont capables, Chloé, ils en sont capables.
On n'avait pas dit que la technologie, c'était sûr. Le bon sens assisté. Du coup, si on n'a pas de bon sens, t'es mort. Quoi. T'es juste assisté. Quoi.
Ce qui me fait rebondir sur une anecdote personnelle, forcément, le bon sens. Est-ce que Waze et est-ce que les applications de navigation ont mis fin aux disputes de couple? Eh bien non. Parce que maintenant, la dispute ne se porte pas sur « mais je t'avais dit de prendre cette route », c'est de comprendre le GPS.
Ça devient compliqué avec
je vais parler de mon cher et tendre. Je suis souvent en volant, il est souvent mon copilote. Et un jour, je suivais ses petites instructions sans trop me poser de questions. Et c'était quand même un peu bizarre, mais je remets pas trop en cause ses instructions. Je me dis attention, le couple avant tout. Et on s'est retrouvés devant un petit pont de bois. Et il me dit bah c'est là. Je fais non, clairement, c'est un pont pour piétons. Et la voiture ne va pas passer la petite barrière. Comment fait-on? Il me fait mais je t'assure, le GPS me le dit. Et donc on a regardé le GPS et il avait mis le mode vélo.
Ah.
Donc effectivement, ça ne pouvait pas nous amener ici. Là même, une autre fois, dans mon petit pays de Bourgogne, où vraiment, notre itinéraire annonçait 3 heures de plus que l'itinéraire habituel. Vraiment, j'étais là, mais je connais bien la Bourgogne, c'est bizarre qu'ils nous annoncent 3 heures de plus. On s'est retrouvés dans des champs, sur des petites départementales très belles. On a vu des biches, des cerfs, c'était génial. Jusqu'au moment donné où j'ai dit, mais... quand même, et en fait, il avait décoché prendre les autoroutes et les voies express.
Ça va, parce que le pire truc, c'est genre, t'as un village et t'as un homonyme, mais genre en Alsace, tu vois.
Oh là,
ça,
ouais.
Et tu pars, tu fais 4 heures de bagnole, tu fais, mais c'est pas la bonne région.
Faut s'en rendre compte quand même au bout d'un moment.
Donc, ça n'a pas complètement enlevé les disputes de couple, mais c'est un peu poétique, parce que du coup, on s'est perdu, c'était chouette. Ce qui m'amène à ma conclusion. Est-ce qu'avec toutes ces applications, on n'a pas perdu un peu de poésie? Déjà, on a perdu tous les pitchs de bons films d'horreur, où les gens se perdent, parce que c'est quand même difficile de se perdre vraiment avec des applications. Et puis, il y a vraiment des études qui se sont posées la question du principe d'errance qu'on a perdu et du principe de savoir se localiser. À force d'utiliser des GPS, en fait, on perd vraiment des bouts de cerveau qui servent à avoir le sens de l'orientation. C'est pas inné, le sens de l'orientation, ça se travaille. Et donc, plus on les utilise, moins on développe ça. Et du coup, il y a plusieurs façons d'y remédier. C'est d'utiliser les GPS qui ont des cartes qui ne sont pas égocentrées. Le GPS égocentré, c'est le GPS de Waze, par exemple. C'est le GPS qui suit ta position, qui va faire une petite flèche et qui va te dire où aller, mais qui ne met jamais les points cardinaux là où ils devraient être.
Ah,
tu ne suis pas le nord et tu n'as pas une vision globale de la carte. Tu as juste un itinéraire qui est surligné et tu le suis.
Ouais.
Et ça, en fait, ça te brouille complètement. Tu deviens un peu teubé de l'orientation.
D'accord.
Donc, faites attention.
Donc, c'est le mode dans Google Maps. Tu peux changer, égocentré, non égocentré.
Donc, voilà, j'ai appris ce terme, égocentré. Je trouve ça assez fou. Et ça veut bien dire ce qu'il en est. Et du coup...
Du coup, ça peut être un argument pour ton cher étendre, mais arrête d'être égocentré comme ça.
Exactement. Mais moi, l'argument avec mon cher étendre, comme je vous dis, je suis née il y a longtemps, et moi, en fait, j'utilise encore les panneaux.
Ah,
et j'utilise encore
bien
en
disant,
bah, si, c'est à peu près par là, parce que je connais cette ville, c'est dans cette direction. Je sais à peu près où se lève le soleil et où est le nord, donc apparemment, c'est pas donné à tout le monde.
Il paraît que les panneaux indiquent la direction.
Oui, ce qui me fait rebondir pour ma deuxième conclusion très mignonne, parce que je trouve que ça enlève un peu de la poésie. La poésie du road trip, la poésie de se perdre.
Et
ça m'a fait penser à une initiative qui date des années 2000 de deux journalistes qui sont Judith Duportail et Laurence Desruaux, Desjoyaux, qui un jour se sont dit « Eh ben nous, on va partir en road trip et on va suivre que les panneaux autre direction et toute direction.
Mmh. » Oh,
ça marche, hein.
Tellement cool.
Et ça a donné lieu à un blog très joli.
Ah ouais.
Où du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est des rencontres, parce que tu te paumes. Hein, et c'est vraiment un voyage un peu fou. Et je trouvais ça intéressant de me dire où vont tous les panneaux autre direction.
Je trouve l'idée géniale.
Donc voilà.
Vraiment. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup de nous avoir emmenés là-dessus et de nous avoir parlé de toute cette réflexion. Je ne savais même pas que Waze embarquait autant de choses. Et je vais vous dire un truc. Pourquoi est-ce que je ne savais pas tout ça? Eh bien, parce que je n'ai pas utilisé Waze depuis très longtemps. Non pas parce que j'ai rendu ma voiture, mais parce que je pars du principe que si une voiture n'embarque pas un GPS d'une qualité au moins aussi bonne que Waze, je ne veux même pas l'acheter. Voilà. Je ne conçois pas de payer une voiture 20, 30 000 euros qui ait une qualité de GPS inférieure à un téléphone à 200 balles.
Mais Ken, tu viens de faire une chronique sur le fait de plus acheter de voiture.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que ton GPS est dans ton téléphone.
Je parlais de mon ancienne voiture. Mais oui, actuellement, évidemment, j'utilise ça. Mais oui, il faut au moins que ce soit aussi bon pour ne pas que je sois dépendant de mon téléphone, pour que juste la voiture soit une interface suffisante à ma navigation. C'est beaucoup plus agréable d'ailleurs.
Et bah, figure-toi qu'un de mes boulots d'été, ça a été d'être chauffeur pour une compagnie de chauffeurs qui faisait plein de choses. Bref. Et on avait des voitures qui coûtaient extrêmement cher avec des options, donc j'ai regardé pour la Mercedes classe E qu'on avait, l'option GPS était à 2500 euros, je crois.
2500.
Tous les chauffeurs sans exception utilisaient le support de téléphone avec Google Maps et Waze parce que ça marche 15 fois mieux et que c'est mis à jour et qu'il y a plein d'informations. Et moi, je vais rebondir un peu sur ton idée de poésie et de destination. Parce que moi, j'utilise Waze, mais d'une façon un peu différente, qui était de dire que sur les trajets que je connais, j'essaie de l'utiliser pour voir s'il me propose quelque chose de plus intelligent, que, parce qu'il voit plus de choses que moi. Mais en fait, je l'utilise même pas pour me déplacer, Waze. Il y a des fois, genre par exemple, sur le trajet que je connais très bien, pour rejoindre peu importe où, je le laisse juste en mode carte, et en fait, j'utilise juste la fonctionnalité
News. Ouais, de news, finalement.
Parce que par exemple, t'es en moto, donc si t'es en voiture, par exemple un in-pool, tu t'en fous.
C'est vrai.
Par contre, un in-pool, quand t'es à 130, eh ben, faut pas trembler des genoux, parce que tu trembles, mais une fois. Et du coup, le fait qu'il t'annonce que t'es des in-pool, que t'es des ralentissements, que t'es des choses, que t'es un objet sur la route, eh ben, ça sauve ta vie.
Voilà. Pas bête. C'est quoi ton petit avatar, toi?
Moi, je crois que c'est le ninja, parce qu'il me faisait trop marrer.
Ils sont tellement mignons.
le ninja avec un petit sourire et tout. Mais parce que moi, du coup, vu que j'ai utilisé comme taf, j'ai explosé tous les avatars. Parce que...
Ils ont des partenariats d'avatars avec des mascottes mignonnes.
Ouais, carrément.
Moi, je veux Rilakkuma ou Agatsuko.
Mais je vous conseille vraiment, notamment, de vous intéresser à Google Maps, autre que pour la navigation, mais pour tous les easter eggs intégrés, parce que c'est assez fascinant. Et par exemple, ils ont fait un partenariat avec King Kong, le film, au moment où il est sorti, et ils ont fait apparaître l'île. Sur Google Maps.
Ils avaient fait un truc avec Pac-Man aussi, où en gros ils généraient du Pac-Man en réalité virtuelle, en réalité augmentée, pardon. En réalité augmentée, tu utilisais ton téléphone.
Exactement.
Et tu te baladais avec ton truc pour aller choper
D'ailleurs, ça y est, les parcours en réalité augmentée existent sur Google Maps depuis cet été.
Ouais.
Ça marche bien.
Hyper bien.
J'ai pas testé.
Ça marche hyper bien. J'ai ça sur. Parce que j'ai un téléphone qui est fabriqué par Google.
Ouais.
Ça marche très très bien. Après, le truc, c'est que ça marche très très bien, mais t'as l'air d'un turbo tocard. Parce qu'en fait,
comme quand tu joues à Pokémon Go.
Non, parce que Pokémon Go, en fait,
Donc
déjà, tout le monde vire le côté
réel, c'est vrai, augmenté,
je t'en fous. Et ensuite, Pokémon Go, ton téléphone, il est baissé.
Ok.
Là, en fait, vu qu'il se sert des bâtiments pour se repérer et pour mettre les flèches, t'as le téléphone tendu devant ta tronche. Donc du coup tu te balades en mettant ton téléphone mais genre bien dans la gueule des gens que tu croises et genre vraiment les gens te regardent en mode mais il est malade.
Bah c'est là que les Google Glass nous manquent du coup.
Oh.
J'avoue.
En vrai.
Ouais.
Ça pourrait être pas mal.
Ouais mais je préfère être turbo douche avec mon téléphone en face de moi qu'avec des lunettes.
Turbo douche.
tu vois. Mais à part si tu t'appelles Tom Cruise, et que t'as un costume Minority Report.
T'appelles Tom Cruise, t'as la classe tout le temps de toute façon.
Et du coup, Tom Cruise il court en plus, donc du coup c'est bon, il perd pas beaucoup de temps.
Dernière petite anecdote que j'ai pas pu caler dans la chronique, mais je trouve ça fascinant, c'est qu'en Angleterre. À l'épreuve du permis, maintenant, il y a une épreuve GPS.
Oh.
Une épreuve où tu t'orientes ou une épreuve où tu suis un GPS.
Un GPS à rentrer dans une station et à suivre le truc. Je trouve ça
c'est
pas bête.
Très, très bien.
Mais ça veut aussi dire que tu peux pas te débrouiller en regardant les panneaux, quoi.
Oui.
Alors, moi, j'ai une autre
anecdote. J'aimerais bien avoir une épreuve panneau.
On peut toujours envoyer monsieur faire un stage.
Les services de l'équipement en France font bien leur travail. J'ai fait la même chose en Italie avec mon père sur un trip qui restera dans nos mémoires. On a essayé de suivre un panneau pour aller à une destination. On n'y est jamais arrivé.
Ah ouais?
Putain, c'était... Genre, tu suis le truc, tu te dis, c'est par là. Et t'arrives à un endroit, il n'y a plus de panneau.
Donc elle était obligée de piffer ta direction.
Ah ouais, non mais complet. Et donc du coup, mais on est retombé plusieurs fois sur l'itinéraire et tu te dis, mais attends, c'est pas possible, ils ont bu là, tu vois. Et du coup, c'était une destination qu'on connaissait à peu près. On est passé par des endroits, mais là pour le coup, c'était poétique. Hein.
Ah, tu vois.
Là, c'était
c'est
bucolique.
Bien de se perdre. Hein.
C'est plutôt bien de se perdre. Et je voulais juste, du coup, terminer un tout petit peu avec une petite remarque. Du coup. Tu vois, toutes les fonctionnalités que tu nous as proposées, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que quand on est chauffeur Uber ou quand on fait du VTC, c'est vraiment très pratique. Mais en tant qu'utilisateur moi-même, j'ai fait du coup un road trip autour de la France un jour avec ma voiture. Et je dois bien t'avouer que la voiture, du coup, en plus d'avoir un GPS plutôt performant, intégrait toutes les monuments, les points d'intérêt intéressants.
Ah, mais alors ça, je fais une chronique là-dessus, sur le filtre de la réalité, ça c'est super aussi.
Les restaurants, les hôtels, en fait, tout ce que, lorsque tu veux te déplacer, faire des grandes distances, tu va être intéressant pour toi.
Oui, mais qui sont choisis par qui?
Qui sont choisis
par... C'est là où on a un problème.
Oui, bien sûr.
Déjà ça, puis en plus, c'est des trucs où t'as des boucles qui se recommandent elles-mêmes, tu vois, genre en gros...
En vérité, oui. La voiture va lire sur Google, t'as le guide Michelin intégré ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'en faisant mon trip, juste en regardant sur le GPS de la voiture, je voyais, tiens, là, il y a un monument, un point d'intérêt. Et oui, ça m'a envoyé vers une petite église quelque part. Donc, le fait de ne pas avoir trop de trucs m'a permis quand même, via la voiture, via le GPS intégré de la voiture, d'aller découvrir quand même le paysage de villes que je ne connaissais pas en France. Et franchement, ça a été une super expérience, moi, de me perdre grâce au GPS. Ouais. Voilà. J'ai vraiment utilisé le GPS pour me perdre. Et parce que je savais pertinemment que peu importe où je me rendais, j'avais juste à rentrer le point de destination où je voulais aller et j'allais m'y diriger juste après. Voilà. Merci beaucoup Chloé pour cette chronique. On va terminer du coup sur une dernière news pour conclure ce deuxième épisode.
Cette news, eh bien, est là pour parler un tout petit peu mobilité pour riches, puisque évidemment on parle beaucoup trop qu'aux pauvres, on donne beaucoup trop de bons plans ici. Porsche vient d'annoncer et de rendre public du coup sa première voiture 100% électrique. Il s'agit de la Porsche Taycan, un record du tour pour une voiture électrique 4 portes au Nürburgring, des performances incroyables, 130 000 euros billets d'entrée sans la le conduite GPS. Autonome et quasiment sans GPS pour te dire la vérité. C'est excessivement cher, mais voilà, la voiture est, il est vrai, extrêmement performante. Du coup, je voulais un peu vous poser la question ici. On parlera sûrement beaucoup de voitures électriques durant les différents épisodes de Commute. On n'est pas trop sur la voiture du peuple. Ça n'a jamais été un peu le créneau de Porsche. Mais est-ce que finalement, dans le credo de la voiture électrique, dans ces changements qu'apporte la voiture électrique en matière de mobilité, aujourd'hui, les gens vont rechercher réellement la performance et la sportivité. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la sportivité, l'électrique ?
Alors, oui et non. Oui, dans le sens où il y a un championnat de Formule I.
Ouais.
Moi,
il est là pour promouvoir surtout les marques qui vendent des voitures électriques.
Oui, oui, et puis aussi pour faire des innovations technologiques. Genre, par exemple, la Porsche Taycan, elle utilise une boîte de vitesse à deux rapports.
Tout à fait.
Alors, ce que Tesla ne fait pas du tout, par exemple.
C'est vrai.
Et ça vient directement de la Formule E, par exemple. Il y a des innovations technologiques. Alors après, moi, je pense que c'est compliqué parce que, par exemple, une voiture qui est très performante pour aller sur circuit, elle doit être nécessairement légère. Et un pack de batterie, ça pèse un âne mort.
C'est vrai.
Donc voilà. Moi, je pense qu'ils se battent sur un créneau qui est d'un autre temps. Malheureusement. Et en plus de ça, le principal défaut de la voiture électrique, c'est quand même l'autonomie. Mmh. Et avoir des moteurs qui sont ultra puissants, qui consomment énormément, et en plus avoir des châssis donc, du coup, qui sont avec des packs de batterie énormes, ça devient un truc qui est hyper lourd. Faites des voitures légères pour tout le monde. Après, je comprends la stratégie marché, c'est comme Elon Musk.
Ils attaquent leur public.
Ils attaquent leur public. Deux, la voiture est très très belle. Mais ça,
plutôt réussi, c'est vrai.
Mon avis tout à fait personnel.
C'est vrai qu'elle est plutôt réussie.
En fait, ils veulent dire, bon voilà, on fait un truc premium qui fait rêver, et pour après peut-être descendre dans des modèles un peu plus abordables, je sais pas, sachant que, enfin, on parle d'une voiture, enfin, on parle d'une marque qui est ultra premium, qui est pas du tout abordable pour le commun des mortels. Je sais pas, je pense qu'ils jouent un peu leur va-tout de survie, parce que s'ils le feront pas, de toute façon, les normes d'émission dans 10 ans, dans 20 ans, quand il y aura plus de voitures à combustion interne, ils feront quoi ? Je sais pas trop quoi en penser. Mon avis très court, c'est que je pense qu'ils sont pas sur le bon. Ils jouent un combat qui est perdu d'avance.
On verra, en tout cas, c'est quand même un des modèles les plus précommandés de l'histoire de Porsche actuellement. Ouais,
à 130 000.
Sur ce créneau, Chloé, exactement. Toi, chef d'entreprise, 130 000 euros, petite voiture de fonction.
Évidemment. Je l'ai précommandée.
Tu fais partie de ceux qui ont précommandé.
Non, mais Victor a bien répondu avec des jolis mots. Moi, avant, je crois, il y a 2 mois, je t'aurais dit c'est bien. Parce que si ça peut attirer le public un peu beauf, sur de l'électrique, c'est cool. Sauf qu'en fait, l'électrique, c'est pas si bien que ça. C'est pas ça qui va sauver la planète, donc je suis assez partagée. Oui, mais jusqu'à peu, je le croyais un peu, quoi.
Non,
ça, c'est quand même mieux que ça remplace.
C'est moins pire. Boîtes...
Victor.
Ah, oui, mais non.
C'est
il
moins
faut
pire.
Qu'on en parle.
On en reparlera. Ouais. C'est moins pire, ouais. Mais clairement, enfin, c'est du greenwashing du premier degré. Hein. Enfin, genre, c'est...
Alors, il y a d'autres motivations, évidemment, que le pur greenwashing. La performance, tout de même, malgré les problèmes de poids, est quand même là. Je rappelle qu'en termes de performance, une voiture qui pèse 2 tonnes 2 va plus vite que l'ancienne Porsche GT3 sur le Nürburgring, 100% thermique.
Oui, mais du coup, c'est incroyable. Ça marche que pour les circuits, c'est-à-dire qu'une voiture, t'as besoin qu'elle aille à 130 km/h, point barre.
Exactement.
Donc arrêtons de
nous
faire chier.
Voilà. Ça limite, je comprends. Même là, on parle de voitures allemandes, donc qui sont sur des autoroutes qui sont déréglementées chez eux.
Admettons jusqu'à 200 km/h. Allez.
Bref. Je pense pas que ce soit. Je pense que Tesla, tout à fait compris leur marché. Parce que du coup, eux, ils s'adressent à des gens qui sont forcément friands de voitures, déjà de base.
Ouais. Ça coûte combien une Tesla?
Le premier modèle, c'est 40 000 euros.
Chez nous, 42 000.
42 000, sans aide, je crois. Tu peux faire descendre un peu avec les primes à la casse si tu te démerdes bien.
Oui. Ça, 42 000 euros.
Sachant que 42 000 euros, c'est un budget quand même.
En vérité, si tu veux la voiture avec tout de même donc les fonctionnalités, compte 50 000. Ouais. Voilà, 50
comme un 000. Bon petit camping-car.
Voilà, comme un bon petit camping-car. Mais donc, tu vas avoir une voiture qui va se mettre à jour, une voiture téléphone. Voilà, on va vers une voiture téléphone qui a déjà la technologie et qui se met à jour en fonction des réglementations et des tout, et qui va t'apporter Netflix, YouTube, le jeu vidéo dans la voiture.
Moi, je pense que le truc le plus symptomatique de cette voiture, c'est son nom, et particulièrement son nom de son modèle performance,
le Taycan, qui s'appelle Turbo.
Ah oui,
et voilà, ça s'appelle Turbo.
Tu parlais des beaux flammes, Chloé, mais là, on est en plein dedans.
Sachant que, traditionnellement, pour ceux qui connaissent pas la gamme Porsche, leur modèle turbo, ça a toujours été les modèles un peu qui sont entre les modèles vraiment de course et les modèles classiques. Donc c'était un peu le
normal
premium du
S
premium.
Turbo GT RS. Voilà.
Sachant que cette voiture, vu qu'elle est électrique et qu'un turbo, ça utilise les gaz d'échappement pour comprimer des choses. Enfin bref,
il y a peut-être un truc qu'on n'a pas compris dans la voiture.
Il n'y en a pas de turbo, donc pourquoi vous utilisez un organe technique d'une voiture qui va être amenée à disparaître et que vous voulez remplacer pour faire un modèle performance?
Du marketing peut-être.
Attendez.
Mais c'est nul. Enfin c'est nul. Appelez ça n'importe quoi d'autre.
iPhone 8, iPhone X.
Appelez-la la Porsche Pro, tu vois, la Porsche.
Non, mais c'est la e-tron ou e-tron.
Ah ouais, non, mais ça, c'est parfait, c'est magnifique.
La e-tron.
Je vous en parlerai quand elle arrivera suite à ma précommande.
C'est formidable. Merci. Le test complet de la Porsche Taycan par Chloé dans le prochain épisode de Commute.
Et Porsche, ne vous vexez pas si vous voulez nous en envoyer une pour qu'on la teste. Je le ferai avec plaisir et je vous expliquerai pourquoi elle est formidable.
Bien entendu, nous serons ravis d'être contredit cas en direct. Que recherchons-nous dans une voiture? C'est aussi ce que pose comme question cette Porsche Taycan, et c'est aussi pour ça que je voulais ici vous en parler. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode de Commute. Merci Chloé, merci Victor. On va conclure avec peut-être quelques recommandations. Victor, tu voulais nous recommander un petit truc là, vite fait, ce mois-ci.
On parlait de voiture, regardez Trafic de Jacques Tati parce que c'est formidable, ou si vous n'avez pas le temps de regarder le film complet, regardez l'intro de Playtime pour un peu vous regarder ce que ça donne la voiture et l'avènement des voitures dans les années 60 et dans les villes qui se transforment après-guerre.
Chloé, est-ce que tu as une recommandation vite fait comme ça avant de partir de tête?
Sous le coude, non, mais le mois prochain, sûr.
Très bien. Eh bien, écoute, le mois prochain, tu l'as vu?
Bien sûr que
Fast
j'ai vu.
Fast and Furious.
Alors, je suis une vraie fan de Fast and Furious et des... Comment on appelle ça?
Des road movies dégueulasses.
Non, mais parce que machin et Hobbs, c'est pas.
Oui, Sean et Hobbs.
Attends.
Des spin-off.
Un spin-off, exactement.
Ça s'appelle Hobbs and Shaw et ça fait Hobbs and Shaw.
Ah, Hobbs and Shaw.
C'est vraiment obscène.
Non, j'ai vraiment une passion Vin Diesel et The Rock et grosse voiture et drift. Ah, mais si, j'ai une reco, bien sûr.
Merci.
Bah, Hyperdrive sur Netflix. Extraordinaire. Bah,
j'allais la prendre.
Extraordinaire, excuse-moi. Bah, parle-en, tu en parleras mieux.
Qu'est-ce que c'est?
Non, c'est parfait.
Donc,
Hyperdrive sur Netflix, c'est tout simplement Sasuke, ou comment on appelle ça chez nous? C'est pas Takeshi Castle, c'est Ninja Warrior chez nous, avec des voitures. Voilà, donc Netflix qui produit un Ninja Warrior avec des voitures. Donc, des épreuves de parcours.
Putain, la
vache. De drift.
Avec des voitures et du drift.
Produit par
Charlize Theron.
Produit exactement par Charlize Theron.
Je suis obligé.
Ils vont prendre évidemment des profils de partout de la planète, soit des petites stars du drift, soit des étoiles montantes, soit.
Arrête-toi, je vais la regarder.
Extraordinaire, ça se mate comme ça.
J'ai pleuré au premier épisode. Voilà.
Hashtag mobilité douce.
François. Franchement, c'est très mobile, c'est très bon teaser, c'est très bien. Merci beaucoup encore. Je vous rappelle, bien entendu, et vous remercie tous pour le soutien du Patreon de qualité. N'hésitez pas, évidemment, à soutenir les émissions de qualité via le Patreon. Je vous rappelle aussi que vous pouvez tous venir sur le forum de qualité pour venir discuter avec nous de mobilité et de commute, ou encore sur le Discord de qualité. On on vous y retrouve tous, Victor, Chloé et moi-même, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi le deuxième épisode de Commute et très très bonne fin de journée.